dans les demeures supérieures. De la divinité, on est la nourriture, c'est terrible, ça alourdit. Hein. On a plutôt tendance à aller vers le bas.
Ouais. J'ai une question à poser pour tout le monde. Est-ce que quelqu'un a reçu quelque chose de particulier pour notre mission ici, sur quelqu'un, sur le groupe, ou quoi que ce soit? Est-ce que quelqu'un a reçu quelque chose?
Ben, si tu poses la question, c'est que peut-être tu as une indication,
non,
toi-même, un petit quelque chose.
Si.
Oui.
Non, pas toi-même.
Attends.
Oui, bien sûr, on pourrait
dire. Ah.
Et sur un plan comme ça, plus objectif, plus rapide, plus simple. Moi, je suis trop compliqué, trop long.
Oh non, t'es très bien.
Non, mais voilà, si quelqu'un a reçu quelque chose, par exemple, pourquoi on est là, bon, on sait tous pourquoi on est là. Mais voilà, est-ce qu'il y a eu quelque chose de particulier, quoi, pour nous aider un peu à nous montrer, à nous orienter, à nous amener à discerner.
Bah, il faut demander au père.
Ah oui, mais père, d'accord, mais on peut le lâcher un peu aussi. On en a.
Oh, il est content là, il a fait le sourire.
Bah oui, il en a marre, porter des gens.
Mais non, pour un jour, mais non, il est en pleine forme. Mais
c'est son
anniversaire.
C'est du troisième degré. Mais bon. Personne n'a rien reçu. Bon, mais Jeannette, t'as rien reçu à part un appel téléphonique?
Bon. Non,
on n'est pas obligé de recevoir.
Est-ce que vous avez. Moi, c'est moi qui veux vous poser la question. Est-ce que vous avez un petit peu perçu ce qui s'est passé depuis 9 mois? Parce que ça fait 9 mois, vous voyez, depuis le mois de décembre, du 1er janvier, jusqu'à maintenant, ça fait 9 mois.
Oui.
Et il s'est passé quand même quelque chose depuis 9 mois. Il y a eu... ça a été un temps de gestation, c'est vrai. Mais cette année 2014, quand même, on sent bien que, enfin moi, je me sens percevoir sur des signes très très extérieurs, hein, le climat, les médias, la France,
l'Ukraine,
on est très mal barré,
le Moyen-Orient,
oui,
les États-Unis.
Très mal barré.
Mais à quoi on joue l'Europe à prendre des sanctions contre la Russie? C'est des conneries, ça. La Russie nous prenne des sanctions, ils nous augmentent le gaz, on est mort demain.
Et la Russie ne va pas nous vendre...
Moi, je sens une énorme chape de plomb sur la France. Je sens un truc très fort sur nous.
Mais non, parce que de toute façon, ils vont vendre leurs armes, les Français, à la Russie. Donc il n'y aura pas des sanctions pour les Français, hein.
Alors, ce qui s'est passé, c'est quand même, il s'est passé une chose.
Alors, oui, qu'est-ce qui s'est passé?
Une des choses qui s'est passée, c'est que le pape est allé à Jérusalem, quand même. Enfin, le pape François est allé à Jérusalem. Et en allant à Jérusalem, bon, on savait que c'était important. Je ne sais pas, moi personnellement, je reconnais, je bats ma coupe, je ne sais pas regarder ce qui s'est passé. Je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas trop ce qu'il a dit, je ne sais pas trop ce qu'il a fait. Je sais qu'à un moment donné, il a demandé d'arrêter sa voiture et qu'il est allé embrasser, vénérer, demander pardon, disons, pour le mur de la honte qu'ils ont construit. Voilà. C'est vrai que ce mur est pas très beau. Quand nous sommes allés à Jérusalem, on l'a vu, ce mur.
Oui,
ce mur, c'est un petit peu inouï qu'ils aient fait un mur comme ça, 10 mètres de haut.
À la première.
La frontière n'est pas une frontière, c'est un mur. Quoi. Sur toute la frontière, enfin, c'était des centaines de kilomètres de murs avec des barbelés au-dessus. C'est comme s'ils avaient fait un immense camp de concentration de 200 kilomètres de périphérie. Quoi. C'est un truc... C'est vrai que c'est pas très... C'est bizarre pour des gens qui... C'est bizarre. Bon, donc le pape, je sais, c'est la seule chose. La seule chose que j'ai vue, on m'a montré une photo où il a demandé d'arrêter la voiture. Il a marché jusqu'à ce mur. Et puis il a fait une prière pour demander pardon. Mais En dehors de ça, je ne sais pas grand-chose. Nous étions très sensibilisés au fait qu'il aille à Jérusalem parce que c'est à Jérusalem, il y avait, vous savez, quand on fait la lecture des mouvements géopolitiques, etc., on sait très bien qu'ils cherchent quelque part par une théorie, on appelle ça la théorie des dominos, vous voyez. On place ici, ça ne marche pas là, donc on fait par là. Vous voyez, ça ne marche pas là non plus, donc on fait par là. Ça, c'est la théorie des dominos. Mais de toute façon, on pousse les pions là où ils peuvent être poussés. Alors, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'avais noté quelques petites choses, remarquer quelques petites choses, mais ça c'est pas du tout spirituel. N'importe qui aurait pu faire la remarque avec moi en disant voilà, il y a eu cette espèce d'annexion de la Crimée par la Russie, si je puis dire. Il y a eu ces histoires d'Ukraine. Pour moi, je pense que si les Américains et si les banques juives internationales et les Illuminati ont déclenché les événements d'Ukraine, c'est parce que ils y gagnaient sur le front de la Syrie, de l'Irak, etc. Parce que la Russie était empêchée qu'on fasse sauter le Grand Moyen-Orient. Donc toutes les banques juives, sionistes et américaines, Illuminati, étaient bloquées là-dessus. Il fallait faire sauter par un génocide systématique de tous les chrétiens du Grand Moyen-Orient, mais aussi des juifs de bonne volonté et des musulmans qui sont des musulmans, bon, messianiques quelque part. Il fallait liquider tous ces gens-là. C'est ça l'effort qu'ils font depuis trois ans et demi. Ça n'a pas marché parce que M. Poutine, dit-on, s'est converti à la foi orthodoxe. Bon, en tout cas, une chose est sûre, c'est que grâce à lui, en tout cas, on n'a pas décapité. On a eu 3 ou 4 millions de moins de martyrs chrétiens en Grand Moyen-Orient grâce à lui en 4 ans. Ils avaient programmé environ 3 millions de génocides chrétiens, financés par la France, l'Angleterre, les États-Unis et Israël, le Qatar et l'Arabie Saoudite. Le but, c'est marqué dans les protocoles des sages de Sion, vous le savez, il ne faut plus qu'il n'y ait une seule poche chrétienne à 350 km autour de Jérusalem. Il faut qu'ils soient tous liquidés. C'est le plan qui est prévu depuis toujours. C'est comme ça. Donc Poutine, lui, dit non. À un moment, Poutine a dit non. Bon, moi, je ne suis pas politicien. Je ne sais pas trop. J'en sais rien. Est-ce qu'il fait son grand cinéma, M. Poutine ? Je n'en sais strictement rien. Moi, la seule chose que je regarde, c'est que tout est suspendu à ce fait que la Vierge l'a dit à Fatima. Il faut que les orthodoxes de Moscou et les catholiques du monde soient réunis. C'est choquant, nous sommes allés à Jérusalem, et on a vu quand même, enfin pas tous, mais enfin, moi j'ai vu, ce miracle qui a lieu chaque année dans le tombeau de Jésus, chaque année, à la date orthodoxe du samedi de Pâques, du samedi qui précède Pâques, de la veille de Pâques. Pas le jour de Pâques, pas la nuit de samedi à dimanche, mais le jour du samedi midi, avant la résurrection. Le feu, d'abord les éclairs, les nuées kabbodiques, des éclairs tout extraordinaires, sans aucun bruit, avec une douceur, une fonction parfaite. Des kabbodes, des nuées comme ça, de lumière et de présence qui envahissent la cathédrale du Saint-Sépulcre, puis se concentre sur le dôme, ce petit dôme qui est grand comme cette pièce, peut-être à peine plus grand en tout cas. Il y a un dôme au-dessus qui est noir, goutron, immonde. On se demande comment on les laisse faire un truc comme ça. Enfin, peu importe, ces nuées kabbodiques rendent translucide, transparente et glorieuse cette coupole qui couvre le Saint-Sépulcre. Puis, comme si ses présences rentraient au travers, pénétrer à l'intérieur du tombeau, et puis touche le tombeau. Et quand le tombeau est touché par ces gloires lumineuses, vivantes, silencieuses, bleues et blanches, il y a un feu qui sort du tombeau. C'est une pierre qui est grande comme deux tables, comme ça, qui est sur la droite, là, quand on rentre dans le tombeau. et le feu sort du tombeau. Et c'est un feu qui est un feu blanc, un peu. Un feu blanc légèrement orangé, qui commence à brûler les bougies des deux patriarches qui ont été enfermés, complètement enfermés avec des seaux de cire dedans. Et le feu sort par les opuscules du tombeau et va allumer miraculeusement les bougies des orthodoxes qui sont dans le Saint-Sépulcre. Et ce feu ne brûle pas. Ce feu ne brûle pas. Il brûle entièrement l'intérieur du réceptacle, mais il ne brûle pas. Il te purifie. Il pénètre le corps des deux patriarches qui sont totalement transfigurés. Et dès qu'ils sortent, vite on se brise les seaux, ils sortent du tombeau de Jésus. Et tout ça, c'est en direct à la télévision dans tous les pays orthodoxes, et en particulier à Moscou. C'est toujours redistribué en direct par la télévision, ça. Et le feu sort. Et les gens reçoivent ce feu, et puis ils se communiquent ensuite le feu les uns aux autres. Bon, rares sont les grands élus qui reçoivent le feu directement, miraculeusement, vous voyez ce que je veux dire. Mais en tout cas, ce feu, du coup, c'est des grandes flammes parce que chacun a des bougies avec 33 mèches. Vous avez vu ça, je pense. Et donc, on se purifie avec ce feu blanc. On met, par exemple, ici le feu, ça fait une flamme grande comme ça. Et vous purifiez le visage, ça ne brûle pas. Pendant le kyrielle orthodoxe. Et puis quand le kyrielle se termine, ça y est, ça commence à chauffer, puis à brûler. Alors là, vous avez intérêt de mettre l'un, parce que là, ça brûle terriblement. Mais ce miracle a lieu quand même, à chaque fois d'une manière totalement différente, chaque année. Et c'est toujours à la date de la Pâque des orthodoxes. Et ça n'est jamais à la date de la Pâque catholique. Sauf, bien sûr, lorsque, par un hasard extraordinaire, ces dates tombent le même jour. Vous avez Saint-Pierre et Saint-Paul, vous avez Saint-André, Saint-Jacques, Saint-Jean et les autres apôtres. Alors Saint-Pierre, lui, il a reçu le pouvoir des clés. Saint-Jacques, il est le patriarche de Jérusalem. Et le patriarcat de Jérusalem, la succession apostolique, se trouve être entre les mains des patriarches orthodoxes. Vous voyez ? Si bien qu'au moment de l'épiphanie, il a reçu, donc en tant que parmi les trois apôtres principaux, Pierre, Jacques et Jean, il a reçu, le successeur de Jacques a reçu toutes les grâces messianiques de Moïse, toutes les grâces messianiques d'Élie le prophète, etc. Bon, c'est ce de Yahushua, sur ce pouvoir messianique sur l'eau, sur le feu. Et c'est pour ça que c'est ce patriarche-là, c'est dans l'ombre de ce patriarche-là que le feu sort du tombeau. Mais aussi au moment de l'épiphanie, il descend avec foule innombrable sur les bords du Jourdain, et puis il, avec sa crosse, c'est une crosse tridentine comme ça, il frappe les eaux du Jourdain et les eaux s'écartent. C'est le patriarche de Jérusalem, et c'est chaque année. Ce pouvoir messianique de Moïse, d'Élie et de Yahushua, c'est sur l'eau, le feu, a trouvé son expression dans la succession apostolique orthodoxe, enfin, du patriarche de Jérusalem. Vous voyez, c'est pour ça que dans la messe, on invoque toujours Pierre et Paul, André et Jacques. André, c'est toute l'orthodoxie. C'est toute l'orthodoxie de l'Asie, tout ça. Et Jacques, c'est l'orthodoxie de Jérusalem. Et l'orthodoxie de Jérusalem est liée à l'orthodoxie de Moscou. Et c'est pour ça qu'on invoque Jacques et André, on invoque donc l'orthodoxie Pierre et Paul, l'Église catholique, romaine, Jacques et André, c'est l'Église orthodoxe. Et Jean, au milieu de tout ça, voilà, on l'invoque aussi à la messe. Pourquoi ? Parce que c'est l'apôtre de l'accomplissement marial, de la fin des temps et de la venue du Fils de l'homme. Donc à chaque fois, on invoque. Et la Vierge de Fatima, elle a demandé quoi ? Eh bien, que ces invocations deviennent indivisibles. Que la succession apostolique soit une seule succession apostolique en communion avec le Saint-Père, en communion avec Jésus sur la terre, je veux dire. Pourquoi est-ce que je dis ça? C'est parce que quand le pape est allé à Jérusalem, nous, on avait comme cette préoccupation, on avait ce désir, on avait cette aspiration. On dit, puis si la Vierge à Fatima a dit quand même, si Notre-Dame de dit, voilà, il faut que tous les évêques du monde, toute la succession apostolique, tous les évêques de Russie se réunissent avec le Saint-Père dans le cœur de Marie pour célébrer une liturgie indivisible, pour que l'Église soit indivise. Pourquoi? Vous savez bien que ce qui fait qu'on va pouvoir être armé face à l'Antichrist 666, c'est parce qu'on aura en main, de manière palpable, l'arme des fruits des sacrements qui est symbolisée par les trois blancheurs. 2, 2, 2. Si vous mettez 2, 2, 2 à l'intérieur du 666, ça fait 888. Vous savez par cœur ça, n'est-ce pas? Mais ce 2-2-2 n'est pas en place. S'il y a eu l'apparition de Fatima, le secret de Fatima, c'est aussi pour dire ça. C'est pour dire qu'il y a eu 1000 ans de séparation. Il y a eu 1000 ans de séparation, il y a eu 1000 ans de dislocation de la succession apostolique. D'un côté, vous avez les apôtres, là, de l'autre côté, vous avez l'apôtre, de l'autre côté, vous avez l'apôtre Cop, et puis Rome, tout ça. Oh là là, en voilà un imbroglio terrible. Et ça fait 1000 ans qu'on est complètement séparés, excommuniés. C'est un truc invraisemblable. Ces 1000 ans, la Sainte Vierge à Fatima a dit, il faut que ces 1000 ans sont terminés. Il faut terminer ça. Oui. Donc quand tous les évêques du monde, et surtout les évêques de Russie, se réunissent dans la succession apostolique de l'Église indivise, c'est-à-dire avec le pape, pour célébrer, voilà pour la première blancheur, l'infaillibilité de la Jérusalem céleste est ouverte. Et il s'agit bien que ce soit dans le cœur de Marie, voilà, donc pour la consécration au fond à Marie, et voilà pour la deuxième blancheur, et il faut que ça se fasse ouvertement, comme ça, explicitement, universellement, unanimement, chaleureusement. Et il faut que ce soit aussi, bien sûr, dans une célébration de la Pâque, unitive et indivise. Voilà. Donc, tout ça, je ne vous apprends rien, puisque c'est ça. Ça a été l'objet de nos prières pendant des années. Peut-être pendant 3 ans de suite, on a toutes les nuits, on faisait cette intention de prière-là. Encore, on continue. Et on se disait, peut-être que le pape François, c'est lui qui va... Et oui, on avait beaucoup de choses avancées dans cette direction. Et puis finalement, il est allé à Jérusalem. Pourquoi est-ce qu'il est allé à Jérusalem? Pourquoi n'est-il pas allé à Moscou? Parce que Jérusalem, Moscou, si je puis dire, c'est la partie la plus, révoltée de l'Église orthodoxe, de la succession apostolique de Jacques. Vous comprenez? Donc, effectivement, il faut qu'il y ait beaucoup d'amour entre nous, etc. Et donc, c'est vrai, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui se sont rapprochées. Le démon, lui, est au courant. Vous croyez bien que, bien sûr, les fraternels, Knaiberit et compagnie, sont tout à fait au courant qu'il faut éviter à tout prix ça. Les Sanaïtes, c'est-à-dire tous les juifs infiltrés, etc., sionistes, disent qu'il faut empêcher ça. Ils savent bien que du point de vue des champs morphogénétiques surnaturels et métaphysiques, si ça se produit, le démon et leur association avec les puissances ténébreuses pour faire un ordre mondial antichrist sera complètement désarmé. Enfin, pas complètement, mais drôlement désarmé. Donc il faut l'enlever. Et c'est pour ça qu'ils ont engagé les événements de Ukraine. Parce qu'en Ukraine, il n'y a rien de plus facile que d'aviver les haines internes, les haines viscérales, mais particulièrement vives, particulièrement cruelles, entre les orthodoxes, les uniates, c'est-à-dire les orthodoxes liés à Rome, les catholiques et les orthodoxes tout court. Et c'est ce qui s'est passé. Si on fait produire une espèce de guerre, on avive comme une espèce, et on arrive, victoire, alléluia, alléluia, à transformer l'histoire du Créle en guerre de religion, on a gagné 10 ans, et pratiquement, on a gagné par rapport à tout le travail d'action, au sens où je l'ai dit tout à l'heure, de l'Église catholique par rapport à ce combat eschatologique. La Vierge a dit, voilà, c'est une course contre la montre. C'est ça notre âme de Fatima. Hein. Donc le pape, il est au courant de ça. Alors, à titre tout simplement anecdotique, je tiens à vous dire qu'une chose, c'est que moi, je suis à la chaise Dieu. À la chaise Dieu, bah, l'évêque s'appelle, actuellement s'appelle Mgr Henri Brincard. Il est complètement en train d'agoniser, là. Il a un cancer généralisé. Il est complètement au bout. Il va, normalement, il doit mourir. Il aurait dû mourir déjà depuis plusieurs semaines, déjà. Bon, il survit. Bah, très bien. Mais il est au bout du... Il est au terme de sa vie. Et il est l'évêque du Puy-en-Velay. Et, à l'évêque, et le Puy-en-Velay, c'est une ville sainte. C'est une ville sainte, à tel point que, bon, Lourdes est devenue une ville sainte grâce à Notre-Dame du Puy-en-Velay. Ça, on ne le sait pas, mais ça, je n'ai pas le temps de vous expliquer tout ça. C'est une autre chose, c'était à l'époque de Charlemagne que ça s'est produit. 1053 ans avant l'apparition de la Vierge à Lourdes. Donc, peu importe, Notre-Dame du Puy, et vous voyez, il y a une ville comme ça, une cuvette, c'est une des villes les plus extraordinaires que j'ai jamais vues de toute ma vie. Avec de temps en temps, et puis à un moment donné, pff, vous avez une montagne qui monte comme ça à 200-300 mètres d'altitude. Et au sommet, du coup, ils ont construit une espèce de petite sanctuaire pour Saint-Michel-Archange. Ah, un autre, un peu plus loin, ça monte à plusieurs... Ils ont construit une basilique pour Saint-Joseph. Ah, un autre, et là, on vénérait une apparition de la Vierge. À l'époque, avant que le Christ ne soit né, une Vierge noire. Et donc, c'est là-dessus qu'est construite la cathédrale de Notre-Dame-du-Puy. C'est l'endroit le plus ancien de la vénération de Marie, qui, par sa foi, a obtenu la guérison du monde entier. C'est là. Et vous avez un autre endroit, ça monte comme ça, et puis au sommet, ça monte à 715 mètres. Et on a construit sur cette quatrième colline, qui c'est quand même une ville extraordinaire. Alors on contourne les trucs comme ça. Et là-haut, il y a une vierge, une basilique, pareil. Et il y a une vierge. Et cette vierge, voilà, si on peut rentrer à l'intérieur de la vierge, parce qu'elle est gigantesque. Elle est venue comment, cette vierge? Cette vierge a été construite parce qu'il y a eu la guerre de Crimée. Vous avez entendu parler de la guerre de Crimée, la victoire des Français sur Sébastopol. Les Français, les Anglais, ont fait la guerre aux Russes. Et c'était la fameuse guerre de Crimée, vous avez la victoire de Sébastopol. Vous avez par exemple le mari d'Hélène Le Goëc, qui est souvent avec nous, son papa, eh bien, c'est lui qui avait le drapeau français, qui a planté le drapeau français sur le plus grand sommet de Sébastopol pour marquer la victoire de la France sur la Russie. À la guerre de Crimée. La guerre de Crimée, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors l'évêque du Puy a dit, puisque la France a vaincu... Alors d'où ça venait cette guerre de Crimée? Je vais y venir, parce que c'est quand même... Ça a l'air... Je vous dis pas ça pour rien, évidemment. C'est pas pour faire un cours d'histoire. C'est parce qu'il faut qu'on apprenne à lire un petit peu les dessous. Les dessous, le fond des champs morphogénétiques de l'histoire du monde. Il y a des courants qui tire vers la destruction du monde, et il y a des courants qui tirent vers l'ascension du monde entier en Dieu. La guerre de Crimée a eu un rôle très important. Elle est venue d'où, cette guerre de Crimée, plus de 150 ans. Elle est venue du fait que le tsar de Russie, à Moscou, trouvait qu'à Jérusalem, les orthodoxes, les arméniens, les orthodoxes, etc., les orthodoxes dont ils faisaient partie, c'est la même famille, les orthodoxes de Moscou, les orthodoxes de Jérusalem, étaient dans il y avait une haine tellement féroce avec les arméniens et avec les chrétiens, enfin les différentes hiérarchies, qu'ils se faisaient la guerre, ils se trucidaient entre chrétiens à Jérusalem. Il y avait une guerre entre les églises. Dans Jérusalem. C'était effroyable. Et lui, il avait peur pour toutes les communautés orthodoxes. Il avait peur, il a dit, mais il faut qu'on protège tous les chrétiens, qu'on arrête cette guerre entre eux. Et qu'il y a protection, au fond, de la succession apostolique de Saint-Jacques, quelque part. Donc, il s'est... Or, Or, la protection militaire de Jérusalem, il n'y avait pas encore les juifs hein, sionistes qui avaient fait l'État d'Israël à cette époque-là. Hein. C'était les Turcs, l'Asie mineure, les Arméniens, tout ça, et qui assuraient la protection militaire du Saint-Sépulcre en particulier. Donc, qu'est-ce qu'il a demandé ? Il a demandé, le tsar a demandé aux responsables politiques, etc., de la Turquie, d'assurer la protection militaire et puis d'assurer la paix là-bas et qu'il fallait faire quelque chose. Mais les musulmans se sont dit non, enfin les musulmans, plus ou moins non musulmans aussi, ont dit non, ils ont refusé. Et comme ils ont refusé, il a engagé la guerre, il a engagé ses soldats exactement comme Poutine a fait pour aller sur la Crimée et à partir de la Crimée, aller sur les bords de l'Arménie pour dire écoutez, la Crimée, il a dit au moins on aura une influence politique positive sur tout ce qui doit se passer jusqu'à Jérusalem. C'était une guerre, j'allais dire, pour envoyer des soldats de la paix, si je puis dire. Vous voyez ce que je veux dire ? C'était un saint, ce tsar, vous voyez ? C'était un saint orthodoxe. Alors là-dessus, bien sûr, la maçonnerie et tout ça, les banques internationales, n'ont pas entendu cette oreille. C'est là que la République française, l'Angleterre, se sont précipités pour faire la guerre à la Russie. Et ça a été la fameuse guerre de Crimée. Et la Russie a été vaincue par la France. Voilà. Et c'est le beau-père de Hélène Le Goët qui a planté le drapeau français. C'est une malheureuse guerre pour nous, la France, franchement. Qu'à la France catholique se batte. Ça a nourri une nouvelle haine vis-à-vis de la catholicité. Alors que les catholiques n'y sont pour rien. La République française n'est pas catholique du tout. Enfin, donc peu importe, c'est pas ça la question. C'est que du coup, l'évêque du Puy-en-Velay a dit ben, tous les canons de Sébastopol des Russes qui étaient en Crimée, il a réclamé qu'ils viennent tous en France. Ils ont été fondus. Et c'est avec les canons de la victoire de Sébastopol qu'on a construit cette Vierge qui se trouve au Puy-en-Velay, Notre-Dame de France. Et quand vous arrivez au genou, vous êtes à 738 mètres d'altitude. C'est lié à la croix glorieuse, hein. La mise en marche de Marie. Elle avance, elle fait avancer l'humanité. Dans la croix glorieuse, c'est Notre-Dame du Puy-en-Velay. On peut rentrer dans l'intérieur. Moi, je suis rentré dedans, on rentre dedans. Je me suis mis à la place de l'enfant Jésus, comme ça. C'est très chouette, Notre-Dame de France, c'est très beau. Enfin, tout ça pour dire que c'est avec les canons du Sébastopol. 153 ans après, jour pour jour, le président de la République française est allé au Puy-en-Velay, Sarkozy. Hein? Et pourquoi est-ce qu'il y est allé ? Mais il y est allé, bien sûr, pas pour dire on est tellement copains avec M. Vauquier. On est très amis avec M. Vauquier. Il a pris un petit déjeuner avec les petites sœurs de Saint-Jean, les petites Christes de ma congrégation. Hein? Et il a pavané dans la cathédrale, etc., etc., etc. Pourquoi ? Parce que c'est très important, puisque la Crimée, donc sur le plan symbolique, lorsque un grand prêtre illuminati comme lui rentre là pour s'assumer la victoire de Sébastopol dans le temps de l'Église qui s'est passé, 153 ans, c'est le temps de l'Église, ça représente des champs morphogénétiques considérables lorsqu'ils sont portés dans les cultes ésotérico-illuminati. Donc, il s'est comme ça, et là, comme ça, il a pu assurer quelque part de quoi briser et d'ouvrir aussi une porte pour que l'Ukraine devienne, et c'est ce qui s'est passé, toutes les forces européennes, américaines, juives, et se sont précipitées sur l'Ukraine pour que ça devienne une guerre, pour que ça reprenne la guerre de Jérusalem, la fameuse guerre entre les orthodoxes, entre les uniates, et entre les catholiques, une guerre d'armée et des Arméniens. Et c'est ce qu'ils ont, essayé d'organiser. Et c'est comme ça qu'est venue l'Ukraine. Vous ne saviez pas hein, qu'il a été quelque part un grand prêtre, quelque part. Hein, pourquoi ? Parce qu'il fallait faire perdre l'avance énorme que le pape Benoît et le pape François avaient acquis dans l'union qui allait se faire, quoi. Ils y allaient, c'était fini, presque c'était acquis. Et c'est pour ça que le pape, au lieu d'aller à Moscou, est allé à Jérusalem, parce que l'origine de la guerre de Crimée, il s'agissait donc de désamorcer de désamorcer le coup bas qui s'est fait en se portant donc sur la fameuse guerre de Crimée, renouvelée 157 ans après. Vous comprenez ce que je veux dire? En fait, 153 plus 3 ans et demi, vous avez bien compris. 3 ans et demi, c'est 1290 jours. Vous savez, rien ne se fait, tout se réalise non pas et mesure. Le pape, il est obligé de fonctionner, il y a eu une action, et boum, allez, il faut. Et du coup, il est allé à Jérusalem. Et on savait qu'il allait à Jérusalem, d'ailleurs il le disait, pour qu'il y ait dans Jérusalem une indivisibilité entre nous. Et c'est ce qu'il a réussi à faire. Quand il est rentré d'avion, il a fait une conférence, comme il aime faire maintenant, il fait des entrées et il a fait une conférence de presse. Pas de presse, mais il répondait aux choses des journalistes. Et puis il a dit, je ne sais pas si vous avez tous plus ou moins entendu le pape, mais à un moment, on lui dit, il a dit, mais c'est idiot cette histoire de Pâques là, c'est complètement ridicule. De quoi vous avez parlé avec les orthodoxes? Ben, c'est pas un peu idiot. Les chrétiens, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il y en a des chrétiens qui disent, ah, nous avons fêté la Pâques hier. Ah, et l'autre dit, ah bon, nous on va la fêter le mois prochain. Ah, et le troisième il dit, ah ben nous c'est demain. C'est ridicule. C'est complètement ridicule. Et alors lui il a placé ça sur le plan du. Comme ça, de là. Oh, c'est pas possible. Je croyais que je l'avais fermé. C'est pour ça qu'il est allé à Jérusalem, vous comprenez? Et donc nous, quand on prie, il faut savoir quand on prie, puisqu'on prend autorité la nuit sur ce sujet-là, il faut comprendre qu'est-ce qu'il faut dessouder, et les prises qu'il faut déraciner. Il faut briser, anéantir ce qu'a fait Sarkozy. Il faut briser, anéantir ce que fait l'Europe là pour manipuler. Il faut briser, anéantir. Voilà. Et c'est vrai qu'il y a, vous voyez, les choses sont sournoises quand même. La course contre la montre, elle est là sous nos yeux. Donc ce qui s'est passé depuis 9 mois, on l'a bien vu sous nos yeux, ça se passe quand même sous nos yeux. Ça se passe sous nos yeux. Alors bon, ok. Voilà. Alors bien sûr, il y a le grand cinéma de M. Obama. Quand même, n'oublions pas qu'il était dans le 32e degré de la loge de Wolfram avant d'être président des États-Unis. Le 32e degré, il y a un rituel où on donne son sang, on le mélange avec le sang de Lucifer. Donc c'est quand même quelqu'un qui est donné à Lucifer. Alors bien sûr, on va déclarer une guerre mondiale contre les islamiques. Contre les islamiques violents. On va faire une guerre mondiale contre les islamiques violents. Deux points. Eh bien, on va aller contre la Syrie. Non, mais il nous casse les pieds, celui-là, franchement. Bon, mais ça, on le sait bien qu'il nous casse les pieds. Voilà, la Syrie, c'est le seul endroit où les juifs de bonne volonté vont devenir chrétiens, le seul endroit où les musulmans sont unis de cœur, mais à fond avec tous les chrétiens, c'est le seul endroit où on est libre de tout le grand Moyen-Orient. C'est le seul pays libre, totalement libre, où les enfants de Dieu s'entendent parfaitement bien. Alors ça, Israël ne le supporte pas. Il ne faut pas qu'il y ait des juifs non-sionistes à portée de Jérusalem. Il ne le faut pas. Donc les juifs qui ne sont pas sionistes doivent être génocidés. Donc il faut savoir petit à petit. Et grâce à ça, vous voyez, on est en train de se rendre compte qu'il y a une guerre qui est en train de s'engager, non seulement pour génocider les chrétiens, mais aussi les juifs. Qui ne sont pas sionistes. Vous voyez où je veux en venir, c'est pas petit à petit. Bon, les juifs ne sont pas sionistes. Il y a des juifs qui ne sont pas sionistes. Pourquoi? Parce qu'ils sont fidèles, ils aiment Dieu. Et ils disent, ils chantent avec une joie profonde ce fait qu'Élie, le prophète, va faire entendre sa voix. Kol. Il fait entendre sa voix. La voix se fait entendre. Kol, kol, kol. Il veut ma sœur. Elle veut entendre sa voix, la bonne nouvelle. Elle veut ma sœur, la bonne nouvelle. Veut Omer. Et elle dit, et tout le monde sait ce qu'elle dit, elle dit, le Messie, le Fils de l'homme arrive. Vite, ouvrons-nous, accueillons-le. Levons-nous, c'est la joie. C'est la libération qui vient pour le monde entier. Les Juifs ont toujours vécu cette venue de Jésus, le Messie, dans le Fils de l'homme qui vient. Ça, c'est les juifs de bonne volonté. Ces juifs de bonne volonté, c'est pas la première fois qu'on veut les liquider. À l'époque de Hitler, et c'est Hitler, n'oublions pas que c'est un juif, puisqu'il est le petit-fils de la branche aînée Rothschild de Vienne. Donc c'était un des plus grands juifs du monde, Hitler. Donc il a fait partie de tous ces juifs, quel soit leur nom, etc., qui ont dit qu'il faut liquider tous les juifs qui pourraient se convertir à la venue du Messie. Ils savent, ils sont pas idiots, ils savent très bien, en 1945, ils savent très bien que le temps arrive et les générations viennent où les juifs de bonne volonté vont tous devenir messianiques et s'unir à un seul peuple, un seul troupeau, un seul pasteur. Voilà, dans le Christ Jésus, notre Seigneur, leur Messie crucifié, voilà, ils le savent bien. Donc il fallait faire un partage des eaux et il fallait faire... Dans une même famille, vous avez des gens qui partaient à Auschwitz et les autres qui étaient préservés. Ce n'est pas les curés qui ont donné les adresses des juifs. Hein. C'est les rabbins qui ont donné, sionistes, qui ont donné les adresses des juifs qui n'étaient pas sionistes. Et c'est les juifs qui n'étaient pas sionistes qui devaient partir pour être liquidés. C'est-à-dire ceux qui étaient de bonne volonté, qui auraient pu être... Qui n'étaient pas d'accord pour être des membres féroces d'un sionisme de la synagogue de l'Antichrist. Vous voyez ce que je veux dire? Ce qu'on dit dans l'Écriture, hein, la synagogue de Satan, c'est des faux juifs. Pour être un vrai juif, il faut avoir le sang d'Abraham. Il faut que la foi palpitante d'Abraham, de Moïse et de David illumine notre prière. Voilà, il y a une espèce de grâce messianique quand même. Hein. Voilà, donc c'est une libellule.
Oui. Derrière toi, mais c'est pas par terre, il y a un mot qui est rentré.
Voilà, donc simplement, moi, je vous dis, qu'est-ce qui s'est passé depuis? Il s'est passé ça, le voyage de Jérusalem, et puis il s'est passé aussi par rapport à nos... Il y a un article que vous avez, que certains ont pu lire, je suppose. Il y a un article qui a été fait par un de nos amis qui s'appelle Pierre Aubry Saint-Paul et il a fait une analyse de tout ce qui se passe, d'après lui, ce qui se passe depuis 1970, depuis la fin du Concile, disons. Voilà. Voilà, le Concile, voilà, a donné des fruits particuliers et a fait à naviguer l'ensemble de l'Église et de l'humanité de la Terre tout entière dans une certaine direction. Et il a donné le titre de sa réflexion, de son analyse, il a donné en parlant du triple reniement de Pierre. Alors, je voudrais venir là-dessus, parce que c'est quand même son article est quand même à quelque chose d'intéressant. C'est très intéressant ce qu'il a dit. Et c'est vrai, en plus c'est parfaitement juste. Et je suis tout à fait d'accord avec lui. Et c'est la réflexion que vous m'avez entendu prononcer, je pense, hier. On dit, ben, c'est vrai qu'il y a quelque chose. Vous voyez, moi je prends par exemple, je voudrais quand même qu'on puisse nous tous être sensibles à ça. Vous voyez, à un moment donné, vous m'entendez quand nous célébrons la messe, vous m'entendez dire, au moment de la consécration, une prière. Cette prière, vous savez, c'est de dire, voilà, roche Jésus, dans ton sang précieux qui s'écoule dans le calice de nos âmes, ô Jésus hostie désirée. Et cette prière là qu'on dit, tu es agneau immolé devant nous, prête de ton propre sacrifice, et merci parce que dans ta bonté notre prière c'est ton holocauste brûlant d'amour où tu te présentes à travers nous dans le sein entier du Père. Bon, cette prière là, c'est une prière à laquelle je suis très sensible et je crois que tout le monde doit être très sensible. Parce que tous les chrétiens d'Orient orthodoxes, comme les coptes surtout, et les arméniens, font cette prière à la consécration. La consécration est triple dans le rite orthodoxe, dans le rite de Saint Jean Chrysostome, que nous fêtions hier, et dans le rite arménien et dans le rite copte. Quand on a été au Liban, vous avez vu, tous ceux qui ont été au Liban ont vu ces messes extraordinaires, tous ces coptes. On a l'impression d'avoir des soldats, ces prêtres coptes-là. Ces prêtres maronites. On a l'impression d'avoir des soldats. Et c'est des soldats, parce que dès que la messe est finie, ils prennent la mitrailleuse et tirent à bout portant. De toute façon, on s'approche pas d'un prêtre, d'un moine maronite comme ça. On va pas les chatouiller en disant, attends, t'es chrétien, je t'égorge. Non, tu m'égorges pas. Et tu n'égorges pas les femmes qui sont ici non plus. Hein. Donc, les femmes, les enfants sont défendus par les moines. C'est pas de la guimauve. Hein. C'est pas de la bave et des mollusques de la bave. Non. C'est des soldats du Christ. Hein. Et alors, il faut voir comment, quand ils. Hein, vous avez vu comment, d'un seul coup, à la messe, hein, ils ont juste une aube, et puis la fameuse étoile rouge, tout ça là. Et puis d'un seul coup, ouais, la messe, bon, on sait pas trop parce que c'est en arabe, en araméen, mais à un moment donné, tous se prosternent comme ça. Et ils font cette prière en araméen. Jésus aussi désiré, victime justifiante. Agneau immaculé, immolé, prêtre de ton propre sacrifice. Dans ta bonté, ta prière, notre prière, c'est ton holocauste brûlant d'amour, par lequel, à travers nous, tu te répands dans le sein du Père. Ô Père de vérité, voici ton Fils, victime pour te plaire. Donne l'agrès pour nous, il s'immole. Il a subi la mort, il s'immole afin de nous justifier. Voici l'offrande. Voilà, cette prière-là, c'est la prière qui accompagne la consécration du rite oriental chrétien. Les maronites sont catholiques. C'est un rite catholique. Et donc, moi, je suis très sensible à cette prière-là parce que c'est tout de même, c'est vraiment des moines, des prêtres, etc., qui sont les Libanais, les Syriens, sont vraiment des saints, quoi. Le mur qui se dresse contre l'Antichrist aujourd'hui, c'est là-bas. C'est pas en France. En France, on est livré à Asmodée, comme l'a dit la Vierge, et aux siens, et c'est tout. Parce que là, on a affaire à des valeureux. Alors, on est très sensible à ça. Le pape, je crois, est très sensible à ça. Que le pape Benoît, la dernière chose qu'il a fait, finalement, c'est d'aller là-bas. Il a mis la paix, d'ailleurs. Pendant au moins un an, les guerres du Moyen-Orient ont été complètement désarmées parce que le pape Benoît est allé là-bas. Désarmé, il n'y a plus rien eu du tout. Il ne pouvait plus rien faire. Il n'y avait plus aucune haine. Pas la moindre empreinte de haine pendant un an. Ça, c'est pas Benoît qui a fait ça. Voilà, mais bon, très bien. Puis après, il a donné sa démission et celui-ci arrive. Donc il a voulu faire la même chose à Jérusalem. À Jérusalem, il l'a fait. Et il y a eu quelque chose qui s'est passé. Vous n'avez peut-être pas remarqué, mais vous savez que le Rabbi Kadouri est mort. Vous êtes au courant du Rabbi Kadouri, non? Alors, Rabbi Kadouri, c'est un rabbin de bonne volonté. C'est un des plus grands rabbins de Jérusalem. Il avait 110 ans à peu près, 108 ans, et il est mort il y a un an et demi à peu près. Et pendant les dernières années de sa vie, Jésus venait visiter Rabbi Kadouri, qui est un des grands rabbins de Jérusalem, et il allait le visiter. Et donc il avait noté des choses, et à sa mort, et puis il avait dit à ses fils, il avait laissé un message en disant, Jésus, le Messie est venu me visiter. Il s'est montré à moi. Or, c'est un des rabbins les plus vénérés depuis la construction d'Israël. C'est un des rabbins, une des autorités juives rabbiniques les plus vénérés, les plus respectés de tout Israël. Alors, il a dit, voilà, le Messie, venez me voir. Et il me parlait. Et il me dit qu'il fallait se préparer. Et il disait qu'il allait venir. Et il m'a dit son nom. Et son nom, c'est Jésus. Et qu'il allait se manifester à tout Israël. Et que ça se ferait, non pas dans des siècles, ni dans des décennies, mais que ça se ferait tout de suite après la mort de Yitzhak Rabin. Et puis voilà que donc, Rabbi Kadouri est mort, il y a un an et demi, et deux mois après, Yitzhak Rabin est mort. Enfin, il est mort cliniquement. Alors du coup, terrorisé, Netanyahou, Shimon Peres, etc., on dit, oh là là, vite, on l'a maintenu. Ils ont maintenu le corps de Yitzhak Rabin en survie, comme ça, de manière complètement artificielle. Et puis finalement, je crois que c'était quoi, il y a 3 mois, c'est donc dans les 9 mois qui viennent de se passer là, qui nous a séparés de l'année, hein, par la gestation. Vous savez, il faut rajouter les faisceaux comme ça. Et ils se sont rendus compte à l'analyse que le cerveau commençait à se pourrir. Donc la putréfaction du cerveau rendait strictement impossible de toute façon son réveil. Et donc ils ont débranché de sa carabine. Donc la prophétie de Jésus au Rabbi Kadori se trouve en application depuis le mois de Nissan, du calendrier d'Israël de cette année, voyez. Donc on fait notre premier Yom Kippour, notre premier Hoshana Rabba depuis. C'est en ce moment le Hoshana Rabba. Il y a toute une portion d'Israël, que ce soit en Israël, que ce soit partout ailleurs, qui savent qu'il faut s'ouvrir, que l'autre jour j'ai été célébrer un mariage, que j'ai préparé d'ailleurs, deux petits qui ont 20 ans, voilà, ils sont mariés, ça s'est marqué, magnifique, et c'est pas pour dire que je les ai mariés que je disais ça, mais c'est parce que le papa me dit, oh, il faut que vous lisiez ce livre. Et donc, il me fait lire un livre, l'un des 3 rabbins de Jérusalem, un livre qui d'ailleurs est préfacé par Mgr Barbarin, primat d'école. Quand même curieux ça, hein. Il est en français ce livre, et je vous ai déjà évoqué ce que disait ce livre, hein, je crois une fois ou l'autre. Ce livre justement, cette nuit je vous en ai parlé justement. Parce que je voulais quand même que ça rentre. Je trouve que ce livre était très intéressant parce que, vous savez, l'exégèse rabbinique, c'est très important. Nous, les catholiques, avec notre exégèse catholique, on n'y comprend pas grand-chose. Si on prend l'évangile à partir du grec ou à partir du latin, on n'a pas les secrets intimes et infaillibles de la doctrine mystique infaillible d'Israël et de l'Église catholique primordiale. Voyez ça. Et c'est pour ça que c'est très important de retrouver ces ressources aujourd'hui chez les juifs messianiques. C'est toute une sagesse infaillible de laquelle nous ne sommes pas écartés, mais qu'on a fini par oublier. Aujourd'hui, on sait bien, l'exégèse, c'est-à-dire l'interprétation de l'écriture, est une interprétation très scientifique, étymologique, philologique, positiviste, sèche, pas du tout vivante. Voilà. Et bien, qu'est-ce que dit ce rabbin? Il dit, voilà, un des grands textes des juifs messianiques, des juifs de bonne volonté, des juifs qui sont ouverts, ne vivent que de la volonté de Dieu, que de l'amour de Dieu, de Adonai Elohim. C'est le chapitre 7 du livre de Daniel. Dans le livre de Daniel, vous avez le chapitre 7. Et à un moment donné, Daniel, c'est important, vous savez. Hein, il faut que vous invoquiez souvent le prophète Daniel pour qu'il puisse venir investir votre prière, parce que c'est quelqu'un qui avait une prière étonnante. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'à un moment donné, il est emporté comme ça au ciel, et il voit l'Ancien des Jours, chapitre 7 du livre de Daniel. L'Ancien des Jours est là, et s'approche, et fait s'approcher de lui, le Fils de l'Homme. Et c'est là qu'il dit, cette expression du prophète Daniel, marque dans toute la doctrine d'Israël, la doctrine messianique d'Israël, un point marquant très important. Parce que ce texte, d'après les rabbins et les nachis d'Israël, c'est un texte qui montre qu'il y a en Dieu une pluralité. Il y a toute puissance de Dieu, l'Ancien des Jours, et il y a le rajeunissement toujours de Dieu. Et ils sont deux. Il y a Dieu le Fils, il y a Dieu le Père. Attention, dans la bouche d'un rabbin, c'est quand même fort, qu'il indique que le chapitre 7 de Daniel montre que quand on parle du Fils de l'Homme, on désigne la divinité incréée de Dieu, mais qui s'engendre dans l'homme, l'engendré éternel de Dieu, dans l'homme, Fils de l'Homme. Et nous, on n'entend pas ça comme ça en français. Mais en hébreu, oui. Donc quand Jésus va prendre Fils de l'Homme, il va dire, je suis l'engendré éternel de Dieu qui se manifeste aux hommes. Et il explique ça, il explique ce que je vous ai dit, je le répète, parce que ça, vous pouvez très très bien l'intégrer dans votre vie contemplative. C'est que quand on s'adresse au Fils unique de Dieu, quand on s'adresse au Fils de Dieu, on s'adresse à Jésus qui est le Fils de Dieu, on s'adresse dans l'humanité, dans le cœur de Jésus, à son hypostase, c'est-à-dire une source en lui, qui est une source de vie divine. Il est source de sainteté, il est source de toute participation à la vie divine. Vous voyez, saint Thomas d'Aquin dit, dans le Christ, il y a la divinité hypostatique, il y a l'union hypostatique, il y a la source de toute vie divine, c'est la grâce capitale du Christ, qui est immédiatement liée à son union hypostatique. Et il y a donc il y a la grâce capitale du Christ et il y a la sainteté du Christ. Bon, et ben, la sainteté du Christ, elle est liée à la grâce capitale du Christ, d'après saint Thomas d'Aquin, et nous, on le désigne dans l'Évangile comme le Fils de Dieu. Mais le Fils de Dieu, il est dans le Christ, dans la nature humaine du Christ. Quand on dit le Fils de Dieu, on dit le Fils de Dieu, on dit mais le Fils de Dieu, on n'atteint pas de manière contemplative en Jésus. Quand on dit le Fils de Dieu, on n'atteint pas, on atteint dans son humanité, ce qui fait qu'il est la tête, qu'il est la source de toute grâce, de toute participation à la vie divine. Il est la grâce capitale. Tandis que quand vous dites fils de l'homme, c'est le contraire. Quand vous dites fils de l'homme, c'est Dieu lui-même qui s'engloutit dans l'humanité de Marie pour venir vers nous dans la plénitude des temps. Et c'est donc c'est Dieu qui vient dans le Messie et qui écarte tout ce qui n'est pas de Dieu. Et ça, c'est la vocation d'Israël. Hein. D'accord ? C'est la vocation d'Israël. Ils sont très sensibles à ça. Ils se sont bien rendus compte il y a 2000 ans que Jésus n'était pas à l'heure du Fils de l'homme. Donc que Jésus dit « Je suis le Fils de l'homme », ils voyaient bien que ce n'était pas vrai. Et Jésus dit, je vois le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel. Et d'ailleurs, c'est ce que dit saint Étienne aussi, je vois le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel. Du coup, ils l'ont aussitôt lapidé. Alors, ces jours-ci, dans l'Évangile, on trouve aussi des choses sur le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme est maître du sabbat. C'est dans le Saint-Sépulcre, lorsque l'humanité du Christ est complètement broyée, donc dans le mystère eucharistique, quand il n'y a plus rien de l'humanité de Jésus, est disloqué. À ce moment-là, le Fils de l'homme est maître de ce grand moment eucharistique. Le Fils de l'homme. Alors, ce qui s'est passé, c'est que pendant 2000 ans, il y a un pont entre le Fils de Dieu et le Fils de l'homme. Et ce pont, c'est l'Eucharistie. Ce pont, c'est l'Église catholique. Ce pont, c'est l'Israël véritable de Dieu. C'est ceux qui, parmi les Juifs, ont reçu le baptême du Christ et ont fondé la pierre vivante de l'Église catholique, de l'Église chrétienne, de la succession apostolique, le véritable Israël de Dieu. Ce pont, cette espèce de pont extraordinaire de la marche dans le désert, du Fils de Dieu jusqu'au Fils de l'homme. Alors, bien sûr, la grâce messianique, elle a été mise, et c'est ça que je voulais, c'est pour ça qu'on est monté ici, c'est parce que je voulais qu'on lise au moins une fois l'épître aux Romains. Ah oui, l'épître aux Romains. Je crois que c'est bien qu'on fasse ça parce que... Je vais lire ça avec vous. Je m'arrêterai au moment où il faut, à certains moments. Et c'est pour ça que je voulais monter aujourd'hui ici. Avec vous lire ça, quand on dit ça à la salette, en plus c'est très bien parce que c'est Notre-Dame de l'Apocalypse après tout. Hein. L'heure de l'Apocalypse est arrivée. Hein. Israël. Pourquoi Israël, qui cherchait une loi de justification, n'est pas parvenu à une loi de justification? Pourquoi ? Saint Paul se dit, la plus grande souffrance que j'ai en moi, c'est que mes frères juifs soient mis de côté. Et cette souffrance est lancinante en moi. Elle me met à mort continuellement. Et je n'en peux plus de souffrir de cela. Mais pourquoi ? Pourquoi est-ce que c'est comme ça ? Pourquoi ? Israël s'est heurté contre la pierre d'achoppement. Pourquoi ? Parce qu'il a cherché à atteindre la justification, non pas par la foi. Mais il a cherché à l'atteindre comme s'il avait pu y arriver par ses propres œuvres. Les œuvres de l'obéissance à la Torah et à la loi. Il s'est heurté contre la pierre d'achoppement. Selon qu'il est écrit, voici, que je mets en Sion une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Mais quiconque croit du dedans de lui ne sera pas confondu. L'Église, Jésus vivant et entier, c'est une pierre d'achoppement. Le pape, c'est une pierre d'achoppement. D'ailleurs, l'Antichrist ne pourra se manifester que quand cette pierre d'achoppement sera écartée. Épître aux Thessaloniciens. Tant que cette pierre d'achoppement ne sera pas écartée, l'Antichrist ne pourra pas prendre toute autorité sur le monde. Sur le monde des hommes, sur le monde des éléments, sur le monde de la lumière, sur le monde de la conscience intérieure. Mais dès lors que la pierre d'achoppement sera écarté. Alors à ce moment-là, il pourra pénétrer dans le sanctuaire et briser les champs morphogénétiques de la conscience originelle, donc de la liberté personnelle et de conscience primordiale de chacun. C'est pour ça que c'est si important hein, de briser la chambre nuptiale du Saint des Saints, de la liberté originelle de chaque être humain. Vous comprenez bien que ce n'est quand même pas pour faire des clones qu'on va autoriser le clonage. Le démon, il s'en fiche de faire des clones. D'autoriser le clonage. De fabriquer des hommes comme ça, copies d'autres hommes. Par clonage. Il s'en fiche, le démon, de ça. C'est pas ça ce qui l'intéresse. Le clonage n'est pas une abomination parce qu'on va produire des hommes et créer des hommes à partir comme copies d'autres êtres humains. Ça, on s'en fiche de ça, enfin, on s'en fiche, c'est pas beau, hein, mais enfin bon, de faire des hommes qui sont des croisements avec des animaux, c'est pas beau, c'est dégueulasse, bon, disons-le correctement, mais c'est pas ça qui intéresse le démon. L'association entre l'animal, l'homme et Satan, oui, peut-être, il y a quelque chose d'intéressant. Peut-être, mais c'est pas ça. C'est un péché de plus, c'est un truc immonde de plus. Voilà, pour lancer au visage du Créateur, très bien. Mais pourquoi le clonage n'intéresse pas le Satan ? Ce qui intéresse Satan, c'est de rentrer dans l'instant, le lieu sacré, où il peut atteindre l'union hypostatique et l'immaculée conception dans leur unité originelle. Et où l'immaculée conception et l'union hypostatique de Jésus sont un, corporellement, dans l'instant et dans le lieu de l'unité originelle, c'est dans l'instant où Dieu me crée chaque être humain. C'est dans le sanctuaire de la vie réservée à Dieu. Dieu qui est là, qui n'est jamais en foyer. Il est là, toujours présent dans tous les temps et tous les lieux. Mais il y a quelque chose, un point tout petit, minuscule, qui lui est réservé à lui seul. Oui, il est présent. Et il est ces deux dons-là qu'il crée depuis son éternité, l'union hypostatique de Jésus et l'Immaculée Conception, dans la présence de la sagesse créatrice de Dieu, puisque son Immaculée Conception, eh ben, elle est quand même là. Elle est dans l'enveloppement des temps et de tous les lieux. Elle est présente. Et quand l'union de l'union hypostatique de Jésus, son premier instant, 9 mois avant Noël, et l'Immaculée Conception sont ensemble, dans l'enracinement en Dieu le Père, dans le sanctuaire de notre univers, dans ce Saint des Saints. Si on pouvait rentrer dans ce Saint des Saints pour disloquer cette unité indivisible du Père, de l'Immaculée Conception et de l'union hypostatique de Jésus. Là, si on fait ça, on brise dans tout l'univers toute cette indivisibilité, indivisible, invincibilité de la paix continuelle qui doit rayonner dans le monde et qui origine notre liberté à nous, parce que nous avons été quand même créés dans ce sanctuaire-là. C'est de là que nous avons dit oui, c'est de là que nous avons émané, c'est de là que le mouvement d'amour éternel du Père s'est concentré dans l'Immaculée Conception et dans le Verbe qui illumine tout en venant en ce monde, c'est-à-dire son union hypostatique, et dans la perte, l'effacement de l'unité des deux dans leur oui mutuel qu'ils ont créé. Ils ont créé ce que je suis. Ils ont créé la personne humaine et chacun d'entre nous dans une liberté immaculée, dans une joie, une béatitude parfaite, dans un élan d'amour pour se donner et disparaître dans celui que nous aimons. Voilà. Et notre conscience d'amour comme petit roi fraternel de l'univers vient là, elle est là. Mais si je peux pour le retrouver, si je bute à un obstacle qui m'empêche de me ressourcer continuellement dans ma liberté profonde et dans ma conscience divine, originelle, primordiale, retrouvée même dans l'union hypostatique du Seigneur Jésus et dans l'Immaculée Conception, s'il y a un obstacle qui empêchera tout homme né en ce monde de se ressourcer à nouveau dans sa liberté, l'Antéchrist, tu crois, pourra atteindre les consciences secondes, les consciences psychiques, les consciences métapsychiques, les consciences cosmiques de chaque être humain. Et donc, il aura la main sur toutes les consciences. Il pourra les pénétrer. Il aura autorité sur toute conscience humaine. Tant que la pierre d'achoppement n'est pas écartée. La pierre d'achoppement, c'est, quelque part, c'est l'infaillibilité dont nous sommes les dépositaires. L'infaillibilité du Saint-Père, dans l'Immaculée Conception, et dans l'union hypostatique de Jésus. Voilà pour l'Eucharistie, pour Marie. Et ce qui fait l'indivisible unité des trois, c'est les trois blancheurs, qu'est-ce que vous voulez, c'est ça. Alors, je reprends. La pierre d'achoppement. Frère, le vœu de mon cœur est ma prière pour Israël. Ma prière pour chacun d'entre eux, c'est qu'ils soient sauvés. Car je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu. Même s'il n'est pas parfaitement éclairé. Ne connaissant pas la tzadaka d'Elohim et cherchant à établir leur propre tzadaka, ils ne se sont pas soumis à la tzadaka d'Elohim. Vous voyez, ils ne se sont pas soumis à cette spiritualité. La tzedaka, c'est la justice. Quand vous voyez la justice, vous traduisez toujours par ce qui s'est passé dans Saint-Joseph pendant les 19 premières années de sa vie. Et pendant les 19 premières années, et même avant sa naissance, il s'est toujours, en demandant pardon, englouti dans le oui de l'Immaculée Conception et l'union hypostatique déchirée de Jésus. Ça a duré 19 ans. Jusqu'à transformation divine, mariage spirituel, corps, âme, esprit complet. Il s'est adapté, il s'est ajusté à l'union de l'Immaculée Conception dans l'union hypostatique déchirée de Jésus. Il a embaumé du nard de sa vie parfaite, toute sa vie, toute sa union transformante continuelle. Il a vécu dans le Zikaron, dans la mémoria du Saint des Saints du Temple véritable. Il ne faut pas dire que les Juifs disaient que le Saint des Saints, c'est dans le temple construit par des pierres. Ils savaient très bien que c'était un sacrement et qu'ils devaient vivre, comme le dit le Nachi Israël, Hillel, le prophète, et le Nachi d'Israël, un des derniers Nachi d'Israël, et même aussi, comment s'appelle-t-il, Simon Nachi, mais je parle Rabbi Nachi, hein, qui est un des derniers grands mystiques d'Israël, qui est mort en l'an 90 après Jésus-Christ. Tous ces gens-là, ils savaient que de vivre dans le temple, c'était dans le corps originel qui appartient à Dieu. Le corps primordial. Ce côté un petit peu de la construction, de la réservation, de la sainteté, de réservée au Créateur, à la paternité vivante, communicative de Dieu. Alors, donc on continue. C'est par là que je voulais venir. En effet... Chapitre 11. Je dis donc, est-ce que Dieu a rejeté son peuple ? Loin de là. Et oui, parce que à cette époque-là, donc Saint-Paul, bah, il voit bien qu'il y a la moitié des Juifs qui reçoivent le baptême. Le baptême du Saint-Esprit, le baptême du sang de l'agneau, le baptême eucharistique, le baptême sacramentel, le baptême de Pierre, le baptême de... Vous voyez ? Et puis, il y a un autre reste qui sont quand même des gens qui sont remplis de ferveur, remplis de lumière, remplis de grâce messianique, qui continuent. Et Jésus l'avait dit d'ailleurs, je ferme leur cœur pour que leur cœur ne se convertisse pas. Je ferme leurs yeux pour que leurs yeux ne voient pas. Je ferme leurs yeux. Pourquoi je devais arrêter ça? Donc c'est pas leur faute quelque part, puisque c'est Dieu qui a voulu les mettre en réserve. Un tiers, vous savez qu'en Apocalypse, deux tiers qui sont devenus catholiques et un tiers mis en réserve. Alors, c'est ce qui pose la question. Ça fait quand même bien des années hein, que ça y est, ce mouvement, il a compris, lui, Saint-Paul, que voilà, il y a un reste qui est mis de côté et que tout Israël ne passe pas dans le mystère de l'alliance entre le Fils de Dieu et le Fils de l'homme, qui doit durer 2000 ans. Alors, il dit, loin de là, est-ce que Dieu aurait rejeté son peuple? Loin de là. Parce que moi aussi, je suis juif, je suis israélite, de la postérité d'Abraham, de la race de Benjamin. Non, Dieu n'a pas rejeté son peuple, qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas ce que l'Écriture rapporte dans le chapitre d'Élie le prophète? Comment il adresse à Dieu cette plainte contre Israël? Seigneur, ils ont tué vos prophètes, ils ont renversé vos autels. Je suis resté moi seul, et ils en veulent à ma vie. Alors que lui a répondu la voix divine à Élie le prophète? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. L'Immaculée Conception, c'est 1000. 7, c'est la profusion et la plénitude de la profession actuelle et indivise du Saint-Esprit dans l'Immaculée Conception. Je me suis choisi ceux qui ont vécu de l'Immaculée Conception dans la profusion du Saint-Esprit, dans l'union hypostatique de Jésus de Cyrée. Voyez, donc ceux qui sont rentrés dans le véritable mémoire de Dieu. C'est le peuple de la mémoire, hein, peuple d'Israël. C'est le peuple messianique de la mémoire. Vous voyez comment on dit 7000, attention, voyez, hein, faites attention, il faut avoir une lecture rabbinique, pas une lecture exégétique positive. 7000, ah oui, 7000, oui. Alors je l'ai fait passer, ça fait 7000, c'est fini, toc. C'est pas ça. 1000, c'est l'Immaculée Conception. 7, c'est la plénitude indivise du Saint-Esprit qui émane de l'union hypostatique de Jésus désiré. Et quand c'est les deux ensemble multipliés, c'est, vous êtes dans la racine de l'unité des deux. Vous êtes dans le sein des saints du Père. Vous êtes dans le lieu d'où le Père vous a créé. Et vous a donné votre oui encore actuel. Vous retrouvez ce oui encore actuel et vous le surmultipliez, surnaturellement et naturellement en même temps, en vous, pour adorer et pour être dans la justification et la justice par la foi. Et ce n'est pas les œuvres de la loi qui vont vous donner ça. Ce n'est pas parce que vous êtes pratiquant. Donc je me suis réservé 7000. Je me suis réservé 7000. Voilà ce qu'il dit, répond à Élie le prophète. Déjà, 888 ans avant Jésus-Christ. Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. De même aussi, dans le temps présent, il y a une réserve. Selon un choix de grâce divine. Donc ceux qui sont de bonne volonté parmi les Juifs sont mis en réserve selon un choix de grâce divine et de bénédiction divine. Il faut le lire, hein, ça. Hein. Or, si c'est par grâce divine, ce n'est plus à cause des œuvres. Autrement, la grâce divine cesse d'être une grâce divine. Alors, qu'est-ce que nous pouvons dire à partir de là? Ce que Israël cherche, il ne l'a pas obtenu. Tandis que les autres ont été aveuglés, selon qu'il est écrit, Dieu leur a donné un esprit d'étourdissement, de tardement. Comme Adam, voyez, on l'a mis dans une tardement pour sortir l'épouse Ève. Dans un esprit d'étourdissement, des yeux pour ne pas voir, des oreilles pour ne pas entendre, jusqu'à ce qu'apparaisse le jour devant leurs yeux. Le temps de l'Église qui dure 2000 ans, voyez, c'est cette tardéma du dernier reste d'Israël. Jusqu'à ce que s'ouvrent leurs yeux et que sorte le mystère des noces de l'agneau à partir de l'indivisibilité de l'Église eucharistique, mariale et apostolique au temps de l'Antichrist. Et le roi David dit, 1000 ans avant Jésus-Christ, le roi David, que leur table leur devienne un piège, un lacet, un trébuchet et un juste châtiment. Que leurs yeux soient obscurcis pour ne point voir. Tiens, Seigneur, leur dos continuellement courbé jusqu'au jour. Alors moi, Paul, je demande ceci. Ont-ils bronché, je ne sais pas si c'est le mot juste, si vous avez une Bible, vous me le direz. Ont-ils bronché, ça ne doit pas être le mot juste. Ont-ils bronché afin de tomber, verset 11, afin de tomber pour toujours? Loin de là. Mais par leur chute, le salut est arrivé aux gentils, de manière à exciter la jalousie d'Israël. Or si leur chute, verset 12, a été la richesse du monde entier, et leur amoindrissement, leur mise à l'écart, leur tardéma, la richesse des gentils, que ne sera pas leur plénitude. En effet, je vous le dis, à vous chrétiens, moi-même en tant qu'apôtre des païens, je m'efforce de rendre mon ministère glorieux, afin, s'il est possible, d'exciter la jalousie de ceux de mon sang et d'en sauver quelques-uns. Parce que si leur rejet a obtenu la réconciliation du monde entier, que sera leur réintégration, sinon une résurrection d'entre les morts? Vous voyez bien que le ministère du retour d'Israël dans le mystère eucharistique marial et de l'infaillibilité du peuple unique de Dieu devant l'Antichrist nous met immédiatement dans une fécondité qui touchera le corps, la résurrection, le corps spirituel. Ils nous sont nécessaires pour pouvoir être dans l'indivisibilité ceux qui crient et obtiennent de Dieu et l'ouverture des temps et la reprise en main, la maîtrise totale de notre origine dans le corps primordial du sanctuaire et l'écoulement libre du flux et du reflux vivant du corps de résurrection dès cette terre dans notre corps mystique actuel comme membre vivant de Jésus vivant. Ça, c'est des choses que nous savons par cœur à force. Alors à ce moment-là, voyez, les noces de l'agneau sont possibles. Pour ça que, voyez, on est dans une espèce de... Tout se concentre en ce moment. Tout se concentre là-dessus. La sponsalité, les noces de l'agneau. Le corps originel. Le corps spirituel venu d'en haut. Le règne du Sacré-Cœur. L'invincible silence d'amour qui ouvre les temps dans les heures de l'Antichrist. L'invincibilité du Fils de l'homme dans le peuple de Dieu. Et le mystère d'Israël, le dernier reste d'Israël, cette réserve. Ils sont réservés pour que, à la prière, à un moment donné, de l'Église, dans les trois blancheurs, dans l'indivisibilité mariale, eucharistique et infaillible de la Jérusalem céleste, lorsqu'on va pouvoir obtenir de Dieu la grâce que les oreilles s'ouvrent, que les yeux s'ouvrent, que les cœurs s'ouvrent, que la conscience d'amour originel s'ouvre dans le reste d'Israël, nous obtiendrons cette grâce. C'est notre mission à nous, véritable Israël de Dieu sur la terre. Et à ce moment-là, leurs yeux s'ouvrant, ils vont apporter des torrents de fécondité, de la fidélité de Dieu et la miséricorde de Dieu qui va faire passer la miséricorde qui a envahi le monde entier vers une gloire. Parce que faire passer la miséricorde qui sauve le monde entier à l'étape supérieure, c'est-à-dire celle du contact physique, spirituel, surnaturel, vivant et lumineux avec le corps spirituel venu d'en haut, le corps de résurrection. Ça appartient à une grâce d'Israël. C'est dans l'Épître aux Romains. Et c'est cette intégration, cette réintégration. Donc il faut prier. C'est pas pour ça que... Alors, on va dire, oui, il faut prier pour la conversion d'Israël. Alors ils disent, oui, les frères d'Israël, alors... Sac Rabin, il est mort, trop tard. Bon, on a prié, oui, on a quand même obtenu quelque chose pour Rabbi Kadouri. Ah, c'est pas mal. Bon, très bien. On prie toutes les nuits pour qu'il y ait le... Pour que les millions de juifs qui sont de bonne volonté messianique ouvrent leurs yeux, entrent leurs oreilles, dire oui, je dis oui, je vais prier maintenant chaque liturgie d'Israël, je vais aller en communion avec l'Eucharistie, enfin avec la scène, avec le céder, avec la quatrième coupe, avec le pain de l'offrande. C'est pas le livre extraordinaire sur le Fils de l'homme et le Fils de Dieu, là. Si jamais vous le trouvez, celui-là, lisez-le, ça vaut la peine. Hein. Donc je continue. Je vous le dis à vous chrétiens, moi-même en tant qu'apôtre des Goïms, je m'efforce de rendre mon ministère glorieux, afin s'il est possible d'exciter la jalousie de ceux de mon sang et d'en sauver quelques-uns, parce que si leur rejet, verset 15 du chapitre 11, car si leur rejet a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration, sinon la résurrection d'entre les morts ? Et ce lien... au produit au cinquième saut de l'Apocalypse, entre le fruit des sacrements, la rédemption du monde entier, et le monde nouveau, c'est-à-dire le flux, le reflux vivant, entre la Jérusalem glorieuse et la Jérusalem spirituelle dans l'indivisibilité d'une seule oblation. Ça, c'est le fruit de la réintégration d'Israël. Mais pas d'Israël satanique, pas de l'Israël de la synagogue de Satan, pas des faux juifs, pas des Illuminati. Je ne parle pas des Rothschild, Bauer, Bernard-Henri Lévy et compagnie. Non, non. Regardez. À la messe, il y a une deuxième prière que disent les orthodoxes. C'est celle que vous m'entendez dire au moment juste avant la communion. La communion dit « Seigneur, Dieu vivant, enfin Jésus, Messie d'Israël, Christ, Dieu vivant, la volonté, l'amour éternel du Père, avec la puissance du Saint-Esprit dans ta mort. » C'est vrai, c'est sa mort qui est devant nous, là. Dans l'hostie, c'est la mort de Jésus qui est là. C'est la passion et la mort de Jésus qui sont là. Donc, c'est ce qu'a dit le Père au sermon aujourd'hui. Dans l'Eucharistie, c'est ça. Donc, on est devant, on est à genoux, on est là, on dit, ah, voilà, c'est la mort de Jésus qui est là, c'est une mort d'amour, parce que, bon, puisque tu es Dieu vivant, l'amour éternel du Père, avec la puissance du Saint-Esprit dans ta mort, ici maintenant, tu donnes la vie au monde. Alors que ton corps et ton sang, auxquels nous allons participer, nous, les Yéhoudis d'Israël, de bonne volonté partout où ils sont, dans le purgatoire ou vivant sur la terre, et puis tous les enfants avortés, tous les enfants apôtres des derniers temps, voilà, nous allons recevoir en recevant moi-même, eux tous reçoivent le pain vivant et sacré et divin, de la nourriture, de la res substantielle, transubstantielle du sacrement, de la présence de ta mort remplie d'amour, puisque c'est l'amour éternel du Père et la puissance du Saint-Esprit. Donc là, je continue la prière, c'est que ton corps et ton sang me délivre de mes péchés, de tout mal, fait que je demeure fidèle à tes invitations, à tes mitzvot. Voilà, il faut qu'on réponde à toutes les invitations de Dieu, à tous les commandements de Dieu. Tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu adoreras ton Dieu, tu te sanctifieras, tu te laisseras transformer jusqu'au mariage spirituel. Tu contempleras la vérité. Tu donneras tout. Il n'y aura plus de jalousie, il n'y aura plus que de la sensualité. Voilà les 10 commandements. Alors, bon, fais que je demeure fidèle à tes commandements. Et c'est là que les orthodoxes rajoutent. Je ne te donnerai pas le baiser de Judas. je ne participerai pas au doute et au triple reniement de Pierre. Mais comme le bon larron, je te supplie, souviens-toi de moi dans ton royaume. Alors je voudrais, avec vous, regarder ces trois phrases-là. Je ne te donnerai pas le baiser de Judas. Bernard-Henri Lévy, il y a quelques 3 ans, quelque chose comme ça, a dit un truc. Tu peux même dire ce qu'il a dit à propos de Judas.
C'est il y a longtemps, c'est dans les années 80.
D'accord, qu'est-ce qu'il a dit à ce moment-là?
Il a dit, il est urgent de réhabiliter Judas en raison de la présence de Satan en lui.
Voilà, il est temps de réhabiliter Judas en raison de la présence de Satan en lui. Alors on peut le prendre de manière positive, peut-être que moi c'était un ami à moi hein, quand j'étais étudiant Bernard-Henri. Hein. On est de la même génération, hein. J'étais pas milliardaire comme lui dès l'âge de 18 ans. Hein. Mais bon, pour dire, c'est un brave type. C'était un très brave garçon. Un peu très sympathique. Mais
bon, très prétentieux.
Il faut réhabiliter Judas en raison de la présence de Satan en lui. Mais pourquoi? Parce que Judas, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné le baiser au Messie. Il savait que c'était le Messie. Et le Sanhédrin savait que c'était le Messie, mais il vaut mieux que lui seul meure pour que le peuple ne soit pas pour sauver tout le peuple. Donc même le Sanhédrin savait que c'était le Messie. Le baiser de Judas, c'est le baiser des fils de Judas. Judas, c'est le fils d'Abraham, Isaac et Jacob. Et le fils principal, le fils royal d'Abraham, Isaac et Jacob. Et l'engendrement des fils de Judas aboutit justement dans cette espèce de royauté d'Israël, aboutit à ce baiser de Judas. Judas, il est l'incarnation de cet amour de la royauté d'Israël messianique transfigurée dans le Messie. Voilà, ils vont embrasser, ils vont livrer par un baiser. Ils vont livrer par un baiser le Fils unique de Dieu parce que le Fils unique, ils ne veulent pas de l'Église. Ils ne veulent pas de cette pierre brisée. Et c'est curieux parce que c'est en même temps hein, qu'il y a le baiser de Judas. Donc quelque part, je ne veux pas rentrer dans le baiser de Judas. Parce que c'est vrai, Jésus dit, comme Judas avait ce baiser en lui déjà, dans son cœur, et qu'il a pris l'Eucharistie, là, il a fait un méchaume. Là, il a fait un méchaume. Ce que n'a pas fait Israël. Israël s'est mis de reste, il n'a pas reçu l'Eucharistie. Du coup, Israël n'est pas possédé par Satan. Mais Judas, c'est l'Israël qui rentre dans le mystère de l'Eucharistie en donnant le baiser des fils d'Israël, c'est-à-dire en faisant la deuxième transgression contre la divinité hypostatique dans le Messie. Pilate le leur livra pour qu'ils soient crucifiés. Il le livra aux Juifs pour qu'ils soient crucifiés. Pilate le leur livra pour qu'ils soient crucifiés. C'est là où Satan est rentré dans Ponce Pilate. Il a dit, il l'a livré aux Juifs pour que ce soit les Juifs qui le crucifient. Le baiser de Judas. C'est un truc très très fort. Donc les orthodoxes disent, je ne te donnerai pas le baiser de Judas. C'est très très fort quelque part. Et Jésus a voulu que Judas soit un des 12 apôtres. Pourquoi? Parce qu'il fallait que les fils de Judas, dans leur baiser, puissent rentrer dans une espèce d'étourdissement effroyable. Qu'ils soient purifiés 40 fois. 40 fois au long des années et des siècles. Pour pouvoir se réveiller dans l'apostolat des fils de Judas. Vous voyez, mais je ne rentrerai pas, puisque là je vais communier, je ne vais pas rentrer dans le baiser de Judas. Et je ne participerai pas non plus au doute et au triple reniement de Pierre. Et c'est là que je reviens sur l'article tout à l'heure, qui est sorti sur Internet. Le triple reniement de Pierre, c'est quoi? Il y a quelque chose qui fait que, et ça depuis 9 mois, je crois qu'il y a une prise de conscience qui se fait. Elle se fait pas seulement entre nous, parmi nos amis, parmi ceux qui prient. Elle se fait aussi, je sais très bien, elle se fait aussi au niveau d'épiscopat, vous savez, elle se fait aussi à Rome. Il y a une prise de conscience qui se fait. Et qui fait que c'est bizarre, c'est curieux quand même. C'est curieux. C'est curieux, c'est effectivement au moment où on rentre dans l'agression la plus des myriades de fois plus graves, plus terribles dans ses conséquences de ce que les antéchrists veulent faire dans le sein des saints de notre liberté originelle pour briser tous les champs morphogénétiques et arracher toute liberté de conscience humaine primordiale dans tous les êtres de la Terre. C'est terrible cette agression, vous croyez quoi? Vous croyez que le pape n'est pas au courant? Alors pourquoi depuis 10 ans, pourquoi le magistère de Rome, pourquoi il dit rien? Pourquoi il se tait? À chaque fois qu'il y a un problème, je sais pas moi, voilà, le pape, par exemple Benoît XVI, a quand même relevé de la charge épiscopale plus de 80 évêques dans le monde. Vous en fous, vous êtes homosexuel, terminé, vous n'êtes plus évêque. Il intervient quand même, le pape, quand il y a un problème. Mais sur le problème le plus grave qui soit, il dit rien. Le pape Jean-Paul II a dit pas maintenant. Il a eu peur, ça je peux vous le dire. Le pape Jean-Paul II a dit non. On ne dira rien. C'est pas maintenant. Et d'ailleurs, il a été fortement menacé de l'intérieur pour surtout n'en rien dire, ne pas l'expliquer, ne pas même faire avancer des dossiers qui pourraient nous faire rentrer dans la prise de conscience en parlant de l'animation immédiate. Vous savez que l'animation immédiate, le fait que Dieu crée à l'instant de l'apparition du génome, montre où est l'instant et le lieu du Saint des Saints, du diamant universel. À partir de quoi Dieu crée l'Immaculée Conception, l'union hypostatique de Jésus, et puis moi aussi. Et puis le premier enfant l'enfant qui est en train de concevoir en ce moment, il le fait à partir du même sanctuaire. Il est toujours présent dans notre univers. C'est dans ce sanctuaire qu'ils veulent pénétrer pour faire sauter les sources de la liberté d'amour et du bruit sponsal de l'être humain, de chaque être humain sur la terre. Et pourquoi est-ce que le magistère se tait? Parce qu'il n'est pas au courant? Bien sûr que si. Qu'est-ce qui s'est passé à l'époque, il y a 2000 ans? Judas a donné son baiser, et du coup Saint-Pierre s'est trouvé dans la cour avec la servante là. Voilà. Et il a eu peur de la servante. Le premier reniement, il a eu peur. Il a eu peur d'une servante. C'est vrai, moi je peux vous dire, c'est vrai, il y a quelque chose qui, c'est quelque chose qui va pas. Il y a quelque chose qui est bizarre parce que le magistère, pendant des années, disons 2000, ça a commencé en 2000, hein, 2000 jusqu'en 2005, il a dit non, il a eu peur. Moi j'ai le témoignage d'archevêques, etc., qui m'ont dit qu'il était terrorisé. Et je sais aussi par le père Cottier, par Yves Dupoyer, par le président de l'Institut de Nazareth, par des gens qui étaient directement, civils, etc., qui ce sujet était un sujet de terreur au Vatican. Et Jean-Paul II, moi je m'en rappelle, quand je lui ai dit, mais très Saint-Père, pourquoi est-ce qu'on ne donne pas l'expression de l'animation immédiate maintenant, quoi, c'est. Pourquoi est-ce qu'on ne donne pas l'expression? J'allais dire la suite. Et lui, si vous connaissez l'histoire, il s'est relevé comme ça. Il était tout plié comme ça. Et quand je me suis avancé vers lui, il dit, mais pourquoi est-ce que vous ne donneriez pas l'expression? J'allais dire de l'animation immédiate, de manière expressive maintenant. Alors là, il s'est relevé, lui qui était complètement tordu, on le donnait mort dans les 2 mois qui allaient suivre. Hein. Il s'est relevé comme un colosse. Là, on m'a donné un grand coup de poing.
K.O.
Il a dit, pas maintenant! Et tous les gens qui étaient là, 33 personnes, on a entendu un grand plouf, tout le monde à genoux. Et il est resté après comme un colosse. Il a continué comme s'il avait 15 ans de moins. Il a été jusqu'au bout, il discutait avec les gens. Bien sûr, vous pouvez être sûr qu'il n'est pas mort 2 mois après. Ma question lui a redonné une force. J'ai eu 5 ans. Ben, j'en ai quand même pris plein la figure. Mais c'est vrai qu'on voyait que c'était, il n'était pas question. Et Jivis m'a fait comprendre, son secrétaire Stanislas, que non, non. Et le père Cotier, non, non, non. Il dit, on est en danger de mort. Et le cardinal archevêque de Bruxelles, comment il s'appelle celui, cardinal de Bruxelles actuel, là, qui tient l'évêque de Namur, Léonard, Monseigneur Léonard, lui aussi, il avait très bien compris ça, il est très, très, très bien compris, et il a été au Vatican, il était un peu porte-parole à un moment donné, et il a commencé à dire oui, à parler de ça un peu, pas beaucoup, un tout petit peu. Tout de suite, il a été menacé de mort, il a été menacé s'il continuait, et son avenir était fini. Il y en a une, notamment une religieuse au Vatican qui a eu tout pouvoir, une espèce de Jézabel au Vatican, il y en a. Hein, qui a dit, mais enfin, qu'est-ce que vous êtes fous d'avoir parlé de ça? Votre avenir est terminé dans l'Église si vous continuez. Hein. Voilà. Et il a été obligé de partir, il est allé retourner en Belgique, finalement il est nommé archevêque de Bruxelles parce qu'il a accepté de ne plus rien dire. Il n'a plus jamais rien dit. C'est pour ça que je dis, je ne participerai pas au doute et au triple reniement de Pierre. Je ne me tairai pas, intérieurement en tout cas, je ne me tairai pas. Intérieurement, je ne me tairai pas. Ah oui, quand même. Comme dit Serge, c'est mon papa. C'est mon papa. C'est notre papa. Il a eu peur. Et puis il est mort. Mais Benoît XVI, il arrive. La deuxième reniement de Pierre, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a participé, qui a dit, t'es d'accord avec le père Marie II en disant, surtout pas parler d'animation immédiate, hein. Sinon, hein, vous êtes zigouillé. Hein. Et donc il s'est jeté sur le Saint-Père, sur la responsabilité, sur l'animation immédiate en disant, non, niette, niette, on ne reproduira jamais votre phrase sur ce sujet. Donc quand il est devenu pape, il a bien eu l'infaillibilité, il a bien vu de quoi il s'agissait, il a vu qu'il s'était peut-être un petit peu allé trop loin pour terroriser le Saint-Père Jean-Paul II, à l'époque. Mais lui, quand on lui parle de ça, bah, il est dans la position de Pierre, devant la servante, qu'est-ce que vous voulez, je dis, il dit, je ne peux pas faire machine arrière. J'ai passé 20 ans à dire qu'il ne fallait pas en parler. Et moi, je sais ce que ça veut dire, il est interdit d'en entendre parler. Parce que je suis fait partie des frères de Saint-Jean qui expliquent pourquoi il ne faut surtout pas en parler. Père Marido, les petits gris. Et pareil pour l'IPC, hein, pareil pour les intégristes, les traditionnalistes, les scolastiques et tout ça. Il ne faut surtout pas en parler. Donc il lui dit, je ne peux pas faire machine arrière, c'est ce qui s'est passé pour Saint-Pierre. Et la deuxième fois qu'on lui dit, mais je viens de renier, je ne peux pas faire machine arrière. Et le troisième, lui, il file par la porte, vous comprenez? Moi, c'est ce que je vois, François, il dit, cette histoire, moi, je ne connais rien. Hein. Allez, hop, je passe par la porte. Et effectivement, le magistère se tait sur le sujet principal de toute la prévarication, de toute l'histoire du monde. Alors que c'est la pierre d'Achop. C'est la pierre angulaire. Alors qu'est-ce qui s'est passé? C'est que du coup, Saint-Pierre, bah, il est sorti par la porte. Je trouve ça trop fort. Et puis il s'est retrouvé devant la Sainte Vierge. Puis il s'est retrouvé devant Saint-Jean et la Sainte Vierge, c'était tous les deux là. Et puis il venait de renier. Alors, il était... Le coq avait chanté deux fois. Le coq, c'est nous. Hein. Et oui, c'est le nouvel Israël. C'est la France, hein, c'est le nouvel Israël de Dieu, deux fois à la transverbérée. Donc si vous vivez de la transverbération dans le nouvel Israël de Dieu, vous criez ça. C'est un cri intérieur. Hein. Vous criez ça dans la conscience du Saint-Père. Alors du coup, il prend conscience que c'est un reniement. Mais c'est trop tard, c'est pas que ce soit trop tard. Le silence est comme ça. La grâce n'est pas donnée à l'Église de Dieu. La grâce n'est pas donnée à l'Église catholique. La grâce n'a pas été donnée à Saint-Pierre de ne pas renier, de taire sa foi devant un Jésus qui était présenté devant le peuple d'Israël, devant l'autorité messianique d'Israël. C'est extraordinaire, hein, ça. Ça fait comprendre beaucoup de choses. Il s'est retrouvé devant Marie. Alors écoutez-moi bien. Lorsqu'il s'est retrouvé devant Marie, Saint-Pierre, avec son reniement, il était brisé, le pauvre homme. C'était terrible pour lui. Il n'allait quand même pas se pendre comme Judas. Hein. Et lui, il a dit, j'ai renié. Il a dit son reniement. Il a confié son reniement dans le cœur silencieux, immaculé de Marie. Ça va? C'est ça ce qui s'est passé. Et dans le sacerdoce final de Jean, il a remis ça dans l'unité du sacerdoce mystique, final, marial. Et du coup, Marie a reçu ce reniement. Elle a reçu dans son cœur, comme si c'était l'annonce de l'ange Gabriel. Elle a dit oui. Il y a eu la supervenue du Saint-Esprit dans le cœur de Marie. Le Père l'a assumé. Et avec le Père, elle a engendré dans le Verbe éternel de Dieu un amour. Un amour du corps mystique vivant de Jésus-Christ jusqu'à la fin du monde. Et la pierre du reniement s'est brisée en deux. Et Saint-Pierre est passé du reniement à cette espèce de rocher qui s'est cassé en deux, qui s'est brisé en deux. Et il a pleuré d'amour, un amour surnaturel, un amour qui va au-delà du voile de la foi, un amour fou et divin en lui, un amour infaillible jusqu'à la fin du monde, un amour silencieux, un amour étouffé. Il ne pouvait plus rien dire, il pouvait encore moins dire, et le pape ne dira jamais rien. Sur la transgression suprême. Et c'est normal. Vous comprenez bien ça? Le magistère se tait. Ça fait comme ça trois fois. Il est beau le texte de Pierre-Aubry Saint-Paul. Il explique comment c'était inéluctable, selon la providence divine, le mouvement du Saint-Esprit pour le renouvellement du monde. Dans le règne du Sacré-Cœur qui doit venir. Je ne te donnerai pas le baiser de Judas. Je ne participerai pas au doute et au triple reniement de Pierre. Oui, pourquoi? Parce qu'il ne reste plus qu'une seule chose. C'est cet amour d'une pierre qui est brisée dans le rideau du temple qui se déchire et le voile qui se déchire. Il y a les trois, le voile qui se déchire, le rideau du temple qui se déchire, l'union hypostatique des cirés de Jésus. Et la pierre qui est brisée. Et ce triple amour produit l'ouverture des temps. Le voile qui se déchire, la réintégration messianique d'Israël dans l'union hypostatique des cirés de Jésus, le rideau qui s'ouvre. Voyez. Et puis, l'ouverture des temps. Il y a quelque chose qui doit se produire. Notre prière, elle est liée à ça. Voyez. Nous, il y a, hein, comme dit l'Épître aux Romains, il y a toujours un petit reste de 7000 fidèles qui ne fléchissent pas le genou devant Baal. En disant tant pis. Et il faut vivre de l'immaculée conception, voyez, dans cette espèce d'indivisibilité du Saint-Esprit, dans cette plénitude d'accomplissement du Saint-Esprit en nous. Et là, à cause de ça, on est comme avec Marie, on est comme le cœur de Marie et de Jean de l'Apocalypse, qui reçoit cette mission de Pierre, du pape, de l'infaillibilité de l'Église. L'infaillibilité de l'Église, vous voyez, se termine ici, quelque part, dans le cœur de Marie. Et nous recevons le Saint-Père dans notre cœur. Et nous livrons dans la plénitude eucharistique finale de l'immolation de l'agneau. Et nous ouvrons toutes les voiles et toutes les portes du rideau du temple, du sanctuaire, du Père. Et du voile de la parousie pour la venue du Fils de l'homme. Et nous invitons et nous convoquons dans l'infaillibilité de l'Église et dans l'amour du Saint-Père, la torpeur du Saint-Père. C'est une torpeur d'amour, hein. C'est une torpeur de. C'est un silence étouffé, on va dire. Sanglant. Bah, sanglant au sens que cet amour est un amour éternel qui se concrétise dans sa. Alors, à partir de cela, Marie a obtenu que la pierre soit brisée, donc que l'église de Jésus puisse être associée à l'ouverture du rideau du temple et à la déchirure du voile, les trois en un. Elle a obtenu ainsi que cette contrition de pierre, cet amour soit véritablement pur et infaillible et silencieux, mystique. Ça va. Elle a engendré du coup, à partir de là, sous la bataille des concrètes de Dieu, le Père, elle a engendré sous la fusion, je veux dire, la supervenue du Saint-Esprit, dans un nouveau oui, elle a engendré cette grâce qui nous a été donnée, que la condamnation du monde a été déracinée de la terre, elle est venue se planter dans l'océan des larmes du Christ crucifié, et toute la condamnation du monde a été retirée du monde, elle a été engloutie dans Jésus, et il a été condamné par les Juifs. Mais s'il n'y avait pas eu le reniement de Pierre, s'il n'y avait pas eu la remise du reniement de Pierre dans le cœur de Marie et de Jean, s'il n'y avait pas eu cette nouvelle incarnation du Verbe de Dieu, dans cette contrition de Pierre, dans cette pierre angulaire et pierre d'achoppement, il n'y aurait pas eu la proclamation de la condamnation par les Juifs du Christ notre Seigneur. Et il a été condamné par les Juifs. Cette condamnation, elle a engendré comme ça, à partir, en assumant en elle la contrition de Pierre, elle a assumé, vous voyez, de quoi faire en sorte que le Verbe de Dieu puisse attirer par une action la condamnation, toutes les condamnations, toutes les autorisations de Lucifer sur tous les hommes du monde entier. Et il les a pris sur lui seul. S'il n'y avait pas eu le reniement de Pierre, vous sentez bien que la condamnation par Israël n'aurait pas été déracinée de la nature humaine tout entière pour être plantée dans la nature humaine du Christ et son union hypostatique. Pierre était quand même déjà la pierre angulaire. Il était déjà Pierre. Sur cette pierre, je bâtis mon Église. Les puissances de l'enfer ne prévaudront jamais contre elle. Et ce qui est lié par toi sur la terre est lié dans le ciel. Et là, il a fait ce que Saint-Esprit lui a demandé de faire. Il a tout remis dans le cœur de Marie et de Jean de l'Apocalypse, quelque part, du sacerdoce final. Dans le cœur de Marie maintenant, et du sacerdoce final de Marie à la fin du monde. C'est ce qu'il a fait, le Saint-Père, à cette époque-là, il y a 2000 ans. C'est ce qu'aujourd'hui il fait, il doit faire, à travers nous. Oui. Donc, quelque part, vous comprenez bien que le ministère d'Israël, qui est un ministère de condamnation, vous pourrez lire l'Épître aux Romains, du coup, dans cette lumière. Vous enlevez, heureusement qu'il y ait le reniement de Pierre, mais nous disons, je ne participerai pas au doute et au triple reniement de Pierre, je ne participerai pas au Pessé de Judas. Je ne te donnerai pas le Pessé de Judas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en même temps les deux, mais du coup, en faisant ça, je rentre dans le cœur de Marie, cette fois-ci dans le cœur sacerdotal, royal, johannique de l'Apocalypse marial, hein, je l'anticipe, je le vis dans l'ouverture du voile, je vis de la part aussi en Marie, dans le sacerdoce actuel de l'Église, de Pierre, de Jacques, de Jean et de, tout, et de toute la succession apostolique, je vis ça mystiquement, intérieurement, silencieusement. Et à ce moment-là, je vois que je sais en moi la source immédiate de l'ouverture des temps. C'est la source immédiate de l'ouverture des temps. Et ayant la source immédiate de l'ouverture des temps, la nature humaine est la même que celle du larron sur la croix, qui est dans l'ouverture du rideau du temple. Et au moment de l'ouverture du rideau du temple, il dit « Souviens-toi de moi dans ton royaume ». Et nous représentons donc, nous, non pas le reniement de Pierre, ni le Pessé de Chita, mais la nature humaine tout entière qui crie qu'elle ne veut plus rien avoir, en aucune manière, que nous soyons jamais et en rien séparés de lui. Et nous courrons comme ça, dans l'ouverture des temps. Et on l'a vu dans le chemin de croix, à partir d'un certain moment, ça y est, c'est fini. ça reste au même endroit. Et nous courons à partir de ce moment-là, dans le flux et le reflux du corps spirituel vivant, ce que dans les profondeurs du corps primordial du Père. Et nous serons dans le baiser du véritable amour. Et c'est ça que nous demandons avec le bon larron. Et c'est ça la prière avant de communier. Oui, je ne participerai pas au triple reniement de Pierre. Je n'aurai pas peur de crier. Je ne reculerai pas et je ne m'enfuirai pas par des portes latérales. Mais je rentrerai dans l'abominable, le bon larron, la nature humaine vraiment abominable qui est la nôtre. Et je crierai que le temps s'ouvre et je vivrai l'ouverture du rideau du temple. Et que jamais, donc dans ce flux et ce reflux du monde nouveau, je ne sois ça plus jamais séparé de toi. Vous voyez, je le dis bien, je vais vous le répéter. Seigneur Jésus-Christ, Fils unique du Dieu vivant, Dieu vivant, enfin Christ, loin de le ciel et la terre, Dieu vivant, l'amour éternel du Père dans la puissance du Saint-Esprit dans ta mort, ici, maintenant, tu donnes la vie au monde, que ton corps, ton sang, nous délivre de tout péché, de tout mal, nous, les enfants sous l'autel, les Yéhoudis tout autour, l'autel lui-même de la gloire de la résurrection, le ministère catholique. Que ton corps et ton sang me délivrent de mes péchés, de tout mal. Fais que je demeure fidèle à tes invitations. Je ne te donnerai pas le baiser de Shvita. Je ne donnerai plus. Moi, dans ma tête, je dis je ne donnerai plus. Parce que je dis pour ça, pour tous les Juifs. Je ne te donnerai plus le baiser de Shvita. Je ne participerai pas. Plus au triple, au tout, au triple reniement de Pierre. J'y participerai plus. Non, parlons plus, n'en ayons pas peur. Donc, mais comme le bon larron, je te supplie, souviens-toi de moi dans ton royaume. Que jamais en rien je ne sois séparé de toi. Eh bien, c'est le prieur orthodoxe.
C'est le prêtre qui le dit.
C'est le prêtre qui le dit, mais il le dit. Ce que dit le prêtre, vous devez le dire, puisque vous êtes prêtre, vous, mystiquement. Oui, hein. Et vous comprenez que ce mouvement est un mouvement très 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 important parce qu'il introduit du coup en Marie, au moment où nous allons communier, la possibilité d'engendrer dans le monde d'aujourd'hui, le monde nouveau, de l'amour, de la pierre brisée en deux. Ce silence de la... Et c'est là où le Saint-Père, Pierre, le Pape, va devenir véritablement infaillible. C'est qu'en ne disant plus rien parce qu'il n'y aura plus que l'amour... Il ne pourra plus rien dire. Saint-Pierre ne peut plus rien dire. Il a renié ses faits. Et heureusement qu'il l'a fait, parce qu'il a fait tout ce qu'il fallait. Il a tout donné à Marie. Et c'est peut-être ce que nous, on doit faire aussi. C'est un petit peu notre mystique, c'est la mystique. Regarde, ces 9 mois là se sont passés, là, depuis le mois de janvier 2014. Normal, hein, c'est le 3e millénaire, 14e année, c'est le chemin de croix. 14 stations, donc c'est normal. Voilà, donc il y a quelque chose. Et puis là, après, très bien après, il ne reste plus qu'à nous remettre dans la sainte face, dans l'âme. Toute ressuscitée, toute glorieuse de Jésus qui brûle. Le temps du nard qui doit embaumer le Saint-Sépulcre. C'est forcément un temps silencieux. Comment est-ce que vous voulez que la pierre brisée de l'amour du Saint-Père puisse s'exprimer dans un cri expressif, dogmatique? C'est pas possible. Jésus est mort sur la croix. Il ne pouvait plus rien dire. Et le silence de la croix est un silence qui fait qu'il doit rejoindre le corps mystique vivant de Jésus vivant et entier. Mais nous, intérieurement, nous représentons Marie, nous représentons Marie et Jean, nous représentons l'Église de l'apostolique, celle qui porte l'infaillibilité du Saint-Père. C'est peut-être à cause de ça qu'il y a 2 papes. C'est à cause de ça que Saint Bernard a dit après le pape. Travail de l'olive, du soleil, le travail du soleil, d'élaborer solis. Après, il y aura 2 papes. La gloire de l'olive et puis Pierre II. C'est-à-dire, ils sont 2 papes, quoi. C'est vrai que François, il a été désigné comme pape dans un conclave, le jour où l'Église fête un saint qui s'appelle Pierre II, et qui était père abbé d'un monastère au XIIe siècle, quelque chose comme ça, en Italie, là où il y a les Ravenne. C'est le seul saint qui s'appelle... C'est pas grave.
C'est une sauterelle.
Alors, est-ce que vous avez compris? Alors, maintenant, je continue la lecture de l'Épître aux Romains. Petit à petit, il faut connaître un petit peu la Bible, un petit peu quand même, un peu aussi. Hein, voilà. Je me rappelle que cette lecture, on me l'avait fait à l'ombre de Marthe Robin, dans la foi de charité, Marthe Robin. Et c'était, oh là là, c'était en 1960... que je me rappelle, c'était en 1975. Père Caléran nous avait, je vous le redis, parce que vous voyez, donc ça fait il y a 40 ans, quoi, à peu près. Car si leur rejet a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration? Oui, sinon une résurrection d'entre les morts. C'est à l'intérêt de l'Eucharistie que l'unité se fait comme ça. Le voile qui se déchire, la pierre brisée, le Saint-Père, l'infaillibilité dans le cœur de Marie de Jean, de l'Apocalypse, et puis le rideau du temple qui se déchire en deux, dans le Saint des Saints, la paternité vivante de Dieu. Quand on réunit les trois en nous, voilà, pour dire en toute vérité, il n'y a plus de baiser de Judas, il n'y a plus de triple de réunion de pierre, il n'y a plus que l'ouverture du sceau. Si le rejet à ce moment-là, l'ouverture du sceau nous met à la fois au fond de la libre communication, la paternité libre de Dieu, dans notre liberté originelle, dans notre corps primordial, dans notre innocence divine, retrouvée, béatifiante, libre, et surmultipliée surnaturellement, n'est-ce pas? Et puis le corps spirituel venu d'en haut, dans la résurrection de Jésus, Marie-Joseph, qui s'écoule délicieusement et librement en nous, dans le corps mystique vivant de Jésus vivant et entier. Alors il y a un seul peuple, un seul Dieu, un seul pasteur. Alors la gare à l'Antéchrist. Antéchrist, gare à toi, parce que là, tu ne peux pas nous atteindre. C'est très important, ça, hein, pour la victoire sur l'Antéchrist. Hein. Ce sera une victoire silencieuse. En effet, je vous le dis à vous, chrétiens, oui, car si leur rejet a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration, sinon une résurrection d'entre les morts? Si les prémices sont saintes, la masse aussi est sainte. Les prémices, mais c'est tous les juifs qui sont devenus la sève de toute l'Église catholique au départ. Les deux premiers siècles, c'était que des juifs pratiquement. Il y a eu quelques. À Antioche, il y en a eu des goïms, quoi. Mais vous savez, quand même, en un seul jour, quand même, Saint-Pierre a baptisé 5000 prêtres à Jérusalem. En un seul jour, 5000 prêtres. Et tous les jours qui ont suivi les autres apôtres, vous comprenez? Non, les prémices, si les prémices sont saintes, la masse aussi est sainte.
J'ai le mal avec le mot prémices.
Les prémices, le début.
Le début, les
prémices. Quand vous faites une récolte, le premier prémices, les tout premiers gerbes qui ont poussé et qu'on peut retirer parce que ça va, celles-là, elles sont mûres. Et les autres vont mûrir plus tard. Mais c'est les prémices qu'on offre à Dieu. Le tout premier panier de cerises, quoi. De la récolte, les prémices. Si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Mais si quelques-unes, pas toutes, si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi, tu n'étais qu'un olivier sauvage, toi qui n'es pas juif, tu as été hanté, mis à leur place, et rendu participant de la racine, de la sève de l'olivier, ne te glorifie pas à l'encontre des branches qui ont été mises de côté pour que toi, tu puisses prendre leur place. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais c'est la racine qui te porte. Alors, dis donc ceci, c'est un ordre. Ces branches ont été retranchées, c'est pour que moi, je sois dedans. C'est beau, ça. Et cela, c'est la vérité. Ils ont été retranchés à cause de leur manque de foi vive, et toi, c'est par la foi que tu subsistes dans leurs racines. Garde-toi donc de pensées orgueilleuses, mais crains, ne fais pas un mouvement contraire à celui de la grâce. Crains, et peur de faire un seul mouvement contraire à celui de la grâce. Parce que si Dieu n'a pas épargné les branches natives, crains qu'il ne t'épargne pas non plus. Considère donc la bonté et la force de Dieu, sa force envers ceux qui sont tombés, et sa bonté envers toi si tu te maintiens dans cette bonté. Autrement, toi aussi tu seras retranché. Et je ne te donnerai pas le PC de Juda, je ne participerai pas au doute et au triple radiment de Pierre. Je ne rentrerai pas, je m'excuse, je vais être très explicite. Je ne rentrerai pas dans la peur de Jean-Paul II. Je ne rentrerai pas dans ce fait que je n'ai pas, je ne peux pas permettre de reculer. De Benoît, je ne peux pas passer par la porte latérale avec François. Je ne ferai pas ça. C'est un mouvement extérieur, intérieurement non. Puisque intérieurement, toutes les nuits, nous leur communiquons ce cri du coq dans la transverbération et nous les introduisons en nous pour que nous-mêmes, ensemble, nous introduisions en Marie et dans Saint Jean de l'Apocalypse, dans le sacerdoce ultime. C'est pas parce qu'on les aime pas, c'est parce que c'est leur charisme de vivre ça, de le vivre dans le peuple de Dieu, c'est-à-dire nous, et qu'ensemble nous vivions en Marie dans le 2-2-2 qui doit vaincre l'Antichrist. Et ça s'apprend spirituellement à faire ça. Il faut apprendre par la foi à rentrer divinement, lumineusement, intérieurement, dans ce pèlerinage intérieur. Ça s'apprend, il faut l'apprendre. C'est pas dire qu'on méprise personne. C'est pas ça. C'est que chacun a son charisme. Voyez ? Hélas, le sacerdoce royal, fraternel, des petits rois fraternels de l'univers, c'est ce que Marthe et Robin expliquaient, passe devant le sacerdoce ministériel, l'enveloppe, l'intègre, le porte et lui donne toute sa magnificence. Considère donc la bonté et la force de Dieu, sa force envers ceux qui sont tombés et sa bonté envers toi, si tu te maintiens dans cette bonté. Autrement, toi aussi, tu seras retranché. Et eux, s'ils ne persévèrent plus dans leur incrédulité, ils seront hantés, ils sont pénétrés dans leurs racines à nouveau. Parce que Dieu est puissant pour les entrer de nouveau. Et toi, si tu as été coupé sur un olivier de nature sauvage et hanté contrairement à ta nature originelle sur l'olivier franc, à plus forte raison, les branches naturelles seront-elles hantées sur leur propre olivier? Non, frère, je ne veux pas que vous ignoriez ce mystère. Afin que vous ne soyez pas sages à vos propres yeux. Une partie d'Israël est tombée dans l'aveuglement, c'est jusqu'à ce que la masse des païens soit entrée. Et ainsi, tout Israël sera sauvé. Tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion. Et il éloignera de Jacob toute impiété, et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'aurai ôté leurs péchés. Il est vrai, en ce qui concerne l'Évangile, ils sont encore ennemis à cause de vous. Mais eu égard au choix divin, ils sont aimés à cause de leur Père. Je t'aimerai à jamais, il a dit ça à Abraham, pour 1000 générations. Mais 1000 générations, vous voyez, hein, on y est encore dans les 1000 générations, hein, largement. Voilà. Et Dieu ne se repent pas. Hein. Abraham, c'est nous, vous me direz, hein. Bon, mais c'est bizarre, je ne retrouve pas le passage que j'ai noté d'ailleurs sur la page qui est ici. Romains chapitre 11, verset 24. Romains chapitre 11, verset 8, 16 et 24. Ah oui, c'est sur les prémices. Alors, vous voyez, ça dépend des traductions. Il faut se méfier des traductions, vous voyez, c'est incroyable. Parce que si la part du pain présentée comme prémisse en offrande est sanctifiée, c'est pour que tout le pain le soit aussi. Alors là, vous voyez, là, je félicite pas Crampon. Là. Très bien. Parce que la part du pain, verset 16. Verset 16. Enfin, c'est facile, regardez, si vous voulez vous en rappeler, c'est chapitre 11 de l'Épître aux Romains. Hein, chapitre 11. Et puis vous prenez le verset 8, puis vous prenez le verset 8 plus 8, 16, et puis le verset 8 plus 8 plus 8. 8, 8, 8. Voilà. Donc chapitre 11, verset 8, 16, 3 fois 8, 24. Voilà. Et bien le chapitre 16, qui est au milieu, concerne l'Eucharistie. Je m'excuse pour la traduction, c'est pour ça, vous voyez, je vais continuer en disant, mais attends, on va y arriver ou pas? La part du pain présentée comme prémisse en offrande, l'Eucharistie que nous célébrons pendant 2000 ans, pendant qu'il crie miséricorde, miséricorde pour l'absolution du monde entier et la libération par le Fils de l'homme, Dieu vivant dans le Messie, qui doit venir. La part du pain présentée comme prémisse en offrande est sanctifiée, l'Eucharistie, pour que tout le pain le soit aussi, pour que tous les Juifs, tout le peuple d'Israël soit présenté aussi comme corps mystique vivant et eucharistique devant Dieu. Dans l'Épître aux Romains, ça. C'est beau, ça. Donc ça montre bien, le verset 16 montre bien que c'est dans l'Eucharistie que tout ça, ça se produit. On les invite dans l'Eucharistie. Je vous l'ai déjà dit. Faire partie de l'Église, c'est être ceux qui sont pouvoir, qui ont autorité, comme de convoquer, de crier invisiblement partout et de faire qu'ils soient présents. Ils crient la vox, voxis, la voix qui crie, pour qu'il y ait une communion, convocation. Convocation, ça se dit ecclésienne, Église. Vous faites partie de l'Église parce que vous convoquez autour de vous, autour de l'autel, sous l'autel, le monde angélique glorieux, vous les convoquez dans votre cœur, et ils sont du coup présents autour de vous, autour de l'autel. Ils l'enveloppent, et ils donnent cette force, cette agilité, cette subtilité, cette divinité, cette sublimité qui fait qu'ils montent comme l'autel divin, sublime, dans les hauteurs de l'au-delà, et devient l'autel de Dieu. Et c'est pas partie de l'exercice. À cause de. S'il n'y a pas de convocation, eh ben, l'autel n'est pas un autel divin sublime dans les cieux. Et si vous êtes catholique, vous voyez, le prêtre, il célèbre la messe, il fait la transubstantiation, mais vous, vous êtes l'Église, vous convoquez, nous convoquons toutes les âmes du purgatoire. Et il faut les convoquer de manière très, très sensible, hein, très palpable. Il faut convoquer l'Église souffrante, il faut convoquer l'Église innocente crucifiée, ça. On sait bien les apôtres. Il faut convoquer aujourd'hui, bien sûr, il faut convoquer les Yéhoudis. Il faut convoquer, on est en plein dedans, c'est le moment. On ne peut pas dire qu'on ne soit pas dans l'heure du triple reniement de Pierre et du PC de Judas, quand même. Celui qui dit, mais non, ça n'a rien à voir. Eh ben, je m'excuse, à ce moment-là, qu'il y a, je sais pas, il y a un problème. Voilà, donc c'est ça. Voilà, c'est, je voulais vous dire ça, au moins ça, pour qu'on puisse quand même s'ajuster. Vous voyez, quand on prend autorité, nous prenons autorité avec la grâce que Dieu nous a donnée. On va pas remplacer le pape quand même. Lui, il a sa grâce, et sa grâce, c'est celle-là. Et heureusement, c'est beau, hein, que le pape Benoît ait dit, voilà, on sera deux. Faut le faire, hein. Fallait le faire, hein. On sera deux. Et ils canonisent Jean-Paul II, tous les deux. Quand Benoît XVI est venu sur la place Saint-Pierre, ça a été des hurlements de bonheur du peuple de Dieu sur la place Saint-Pierre. Pourtant, il paraît qu'il est très, très ovationné, François. Mais là, quand Benoît XVI est entré, alors là, ça a été une... des hurlements de bonheur. C'est, tous les deux étaient là. Il y avait Jean-Paul II canonisé. Ça veut dire que désormais, il peut venir sur la terre, sur l'autel, à chaque messe, en communion avec les deux papes qui ont ouvert leurs portes, voilà, dans le cœur de Marie, pour qu'il n'y ait plus que l'amour d'une pierre brisée. Alors c'est l'heure du voile qui doit se déchirer, c'est-à-dire nous, on peut du coup en réponse convoquer les juifs, tous les juifs, 3300 ans. Alors vous me disiez, oui, pas 3000, 2000 ans de génération qui attendent. Regardez, il faudrait lire ici l'ouverture du cinquième sceau de l'Apocalypse. Il y a des âmes qui sont sous l'autel, il y a des âmes qui sont autour de l'autel, qui sont dans l'autel, qui sont face à face avec l'autel. Et qui attendent, et qui attendent. C'est avant l'ouverture du cinquième sceau de l'Apocalypse. Donc c'est avant l'avertissement, puisque vous adorez sous les mâts, là, ou je ne sais pas quoi, là. Il vaut mieux lire l'Apocalypse, c'est beaucoup plus clair que sous les mâts. Sous les mâts, on ne comprend rien au reniement de Pierre. On n'a pas saisi même les premières prémices, elle, de ça. Un jour, elle entendra, elle en fera un message, vous inquiétez pas. Donc, l'Apocalypse, juste avant l'ouverture du cinquième sceau, il y a des âmes qui sont sous l'autel. C'est quand même extraordinaire, ça. Je vais le lire aussi, puisqu'on y est. Et puis après, on se... Non, je peux pas. Ouverture du cinquième sceau. Vous allez voir que c'est très, 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 très clair. La femme et le dragon. L'agneau. Les sept coupes. Quand s'ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l'autel les âmes. Hein? C'est des âmes, c'est des personnes qui sont mortes. Hein? Les âmes de ceux qui avaient été immolés pour le Verbe de Dieu et pour le témoignage qu'ils avaient eu à rendre. Et ils criaient d'une voix forte. En disant, jusque à quand, ô Maître saint et véritable, ne ferez-vous pas justice et ne redemanderez-vous pas notre sang à ceux qui habitent sur la terre? Alors, on leur donna à chacun une robe blanche. Et on leur dit de se tenir encore en repos, en paix, encore un peu de temps, jusqu'à ce que soit complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient mourir comme eux. Alors bien sûr, quand on attribue ça, il faut l'attribuer trois fois, ça. On attribue ça d'abord aux apôtres des derniers temps, c'est-à-dire les enfants qui n'ont pas pu naître, qui ont été immolés dans les laboratoires des abominateurs de Dieu, broyés dans les laboratoires. C'est quand même des millions. Mais aussi, dans le ventre de leur mère. Ça représente quand même, depuis environ 50 ans, je crois que ça représente 70 milliards, je crois. C'est énorme. Et chacun crie, un cri effroyable de douleur, mais aussi d'aspiration, de soif, pour recevoir la robe intérieure d'innocence de Jésus. Alors on leur donne cette robe d'innocence pour qu'ils attendent dans un ministère apostolique du cinquième sceau, un ministère de patience, de durée dans la patience, jusqu'à ce que le nombre de l'Immaculée Conception soit complet. C'est beau ça, hein? Mais ceci est valable aussi pour les juifs de bonne volonté qui ont été tués dans leur foi messianique à cause du Verbe de Dieu. Ils ont été tués par leur père, par leur prêtre, par leur grand-père. Ils ont été tués. Et on sait très bien que ça va jusqu'à se faire de tuer. Et on a eu la preuve avec l'Holocauste. Il y a quand même plus d'un million de juifs qui sont morts dans les holocaustes de Hitler. C'est quand même énorme, ça. Ça montre bien qu'ils sont mis à mort. Tu dois être mis à mort plutôt que de vivre du verbe, de la transverbération. Et tu restes juif dans la grâce messianique, dans la grâce chrétienne, dans la grâce de Jésus, tout ce que tu veux, dans la grâce du Fils de l'homme. Mais le verbe de Dieu, la transverbération, non. Ils sont mis à mort dans leur foi. Ils ne peuvent pas être de véritables juifs. Ils sont de bonne volonté d'aspiration. Ils doivent durer et ils meurent avec ça. Ils ne vont pas en enfer. Ils sont mis en réserve, on vient de lire, grâce à l'Eucharistie, puisque les prémices sont saintes, jusqu'à ce que le pain soit complet. Voilà. Et si leur mise à l'écart a été mise comme ça, ils ont été mis à mort dans un espèce de péché mortel, si vous voulez, d'accord, par rapport au Verbe de Dieu, mais par rapport à la messianité. Ils communient sur l'autel, ils communient dans l'autel, on l'a lu dans l'Épître, je crois, hier, hein. Ils communient dans l'autel, à la connaissance de Dieu et à l'amour de Dieu. Tandis que ceux qui communient sur l'autel des idoles, ils communient aux esprits mauvais. Tandis que eux, ils communient, ils ont communié à l'esprit et à la communion avec Dieu. Mais pas au verbe, pas à la transverbération. On est d'accord? Donc voilà, donc ils meurent comme ça. Et bien ils sont autour de l'autel, ils sont face avec l'autel. Ils sont dans l'autel, si je puis dire. Ils sont dans la main, ils sont dans la tente. Ils sont dans ce grand passage terminal qui aboutit à la fleur de Nazareth du monde nouveau, qui doit s'ouvrir dans l'ouverture des temps. Et ça, quelque part, voyez, ils doivent recevoir la tunique d'innocence. L'innocence triomphante divine du Verbe de Dieu. Ils ont été mis à mort à cause du Verbe de Dieu. Ils n'ont pas connu cette espèce de mort pour ne pas rentrer au ciel à cause du Christ Jésus. Ils ont été mis à cause du Verbe de Dieu, à cause de la divinité, de la toute-puissance divine du Verbe de Dieu dans Jésus de Nazareth. C'est là-dessus qu'on leur a dit non. Eh bien, voilà, dans l'Eucharistie, on les invite, on les convoque pour qu'ils soient revêtus intérieurement de la tunique d'innocence, du baptême, du monde nouveau, de l'ouverture du cinquième sceau. Non seulement ceux qui sont déjà morts, mais voyez, en même temps, ceux qui sont morts, ça fait quand même, donc je crois que c'est à peu près 200 millions, mais ça fait rien si je me fais une erreur de calcul. Je suis tout à fait prêt à dire que je me suis trompé dans le calcul. C'est pas ça la question, peu importe. C'est 222 millions si vous voulez. Pour moi, ils sont 222 millions. Mais en tout cas, à un moment donné, dès lors qu'on aura baptisé, vous savez, je vais vous dire, je vais faire un aveu. Je viens de passer 10 jours, là, extraordinaire. Là-bas, chez moi, dans mon ermitage. Vraiment, j'ai passé 10 jours extraordinaires. Chaque matin, je célébrais la messe. Alors, et je célébrais la messe pour eux, justement. Et les premiers que j'ai pris, c'est les 100 premières années, vous voyez, donc entre l'an 30, la mort de Jésus, jusque l'an 100 et quelques, quoi. Enfin, pendant les premiers siècles, je les ai pris tout cela qui était contemporain de Jésus et des apôtres. Et puis le lendemain, j'ai pris tous ceux qui, eux là, les mêmes, mais aussi ceux qui sont venus jusque pendant les 200 années suivantes, jusqu'à la découverte de la croix à Jérusalem. Et alors, on les a embarqués, on les a enveloppés, on les a revêtus. Et c'est facile à faire avec la prière curative de guérison. Dans le pèlerinage spirituel, on s'enveloppe, on se laisse revêtir intérieurement dans le sang, dans l'âme. Ah là, on les revêt, on les a revêtus tous, avec l'eau bénite, tout ça, la lumière et tout, la messe, la communion, ils se tirent autour de tête au palpitant. J'ai recommencé après du 3e au 5e siècle, j'ai passé 10 jours comme ça. Et donc, juste avant de venir ici, peut-être le jour où je suis venu ici, alors, si vous étiez quelques-uns avec moi d'ailleurs, eh bien, on a pris tous ceux qui sont morts dans l'Holocauste. En 1950, enfin, à la guerre. Et puis le dernier jour, c'était de tous ceux qui sont morts, depuis la guerre, depuis l'Holocauste, jusqu'à maintenant. Ah, c'est toutes les âmes, tout ça. Alors, à chaque fois, je vous assure qu'ils étaient contents. Hein. Ils étaient contents. Et on leur revêtit de la robe d'innocence. On les revêt. Alors, il leur fut remis une tunique, une robe blanche, la tunique sans couture, voyez. Et leur rôle sacerdotal, ultime, terminal, royal, yéhoudique. C'est extraordinaire. C'est ce qu'on fait déjà pour les enfants C'est ce qu'on fait déjà pour les enfants qui sont morts avant de pouvoir naître, les enfants non-nés. On le fait pour eux, mais eux, ils portent la Sainte Famille. La Sainte Famille de Jésus-Marie, Joseph tout glorifié, tout palpitant de gloire dans un unique amour, incarné, palpitant, incarné, glorieux et fécond. Voilà, et il porte ça dans le sein du Père. Dans le sein du Père, dans le sein du Père, dans les plus grandes hauteurs, dans les plus grandes profondeurs. Il porte l'autel, à l'autel qui passe de l'alpha à l'oméga, de la paternité et de la gloire. Hein. Ça devient un véritable autel, l'autel divin, sublime et céleste. Ça, c'est à cause des enfants que nous revêtons. Du coup, l'autel devient divin, sublime et céleste. Et il donne quelque part à la fécondité de la Sainte Famille glorieuse de Jésus, Marie, Joseph, une indivisibilité qui fond et qui fait s'écouler en eux et en nous, quelque part, la grâce nouvelle de pouvoir revêtir de l'intérieur le peuple yéhoudique. C'est lié, si vous voulez. Et il faut en même temps que l'Église catholique soit revêtue de la tunique nouvelle du monde nouveau. C'est pour ça que les trois sont valables. Parce que tous ceux qui vivent de l'Église catholique, des sacrements, sans la transverbération, doivent être revêtus de la tonique d'innocence. Et on fait cette convocation. C'est une convocation mystique, c'est une convocation efficace, c'est une convocation accomplie, c'est une convocation féconde. C'est une contemplation, c'est une fécondation, c'est un revêtement intérieur, ouais, qui est sponsal aussi. Nous devons le faire. Est-ce que c'est compliqué ce que j'ai dit ?
Très compliqué.
Voilà, donc comme ça vous avez un petit peu d'explication de texte pour la prière d'autorité. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et je suis le fruit de vos entrailles béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.